Vous êtes sur RTL.
Bonjour Stéphane.
Heureux, Dominique, c'était un plaisir. C'était joyeux de vous écouter ce lundi matin. Merci
allez,
à vous.
Belle matinée à vous.
Je vais accueillir avec plaisir Louis Baudin, bien sûr, le remercier vivement pour ce très joli mois de mai. On se régale. On va se régaler en vrai ce matin. Partager la joie d'une ville, de ses supporters de football. Lille est donc le champion de Ligue 1. Lille devant le PSG, s'il vous plaît, au terme d'une saison dingue en termes de suspense. Du coup, les fans ont fait du bruit toute la nuit.
Enfin, après 10 ans, ça fait plaisir et on y est arrivé.
Lille est champion, on a renversé l'ordre. Je suis très heureux aujourd'hui.
Une information positive sur laquelle nous allons surfer avec le bonheur XL des joueurs, des entraîneurs, des supporters. Martine Aubry, la maire lilloise, sera avec nous à 8h20. Elle dialoguera avec Ludovic Obraniak, champion de France avec Lille il y a 10 ans. Un réveil plein de sourires, un lundi qu'on vous souhaite excellent, encore plus si c'est votre anniversaire, 24 mai comme Bob Dylan. Vous avez prévenu, c'est le bonheur intégral ce matin. Soyez tous les bienvenus, il est 7h.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet, son visage radieux d'une femme du Nord. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc ils n'ont pas dormi de la nuit, les supporters lillois.
Eh oui, hier soir, la Grand Place était noire de monde malgré le couvre-feu. Et au petit matin, les fans étaient encore là pour accueillir les nouveaux champions à l'aéroport. Ambiance dans un instant. Et nous ferons le point aussi sur le reste du classement. Le PSG déçu, Monaco en Ligue des Champions. On dépend de Lyon et Nantes barragistes. À suivre également l'incroyable arrestation d'un opposant bélarusse. Son avion de ligne a été détourné, ce qui suscite une vague d'indignation. L'homme qui a caché pendant un an la porte volée du Bataclan, mis en examen, c'est une information RTL. Et puis, il n'y a pas que Netflix hein, dans la vie. Depuis mercredi, les Français retournent au cinéma.
À la fin de votre journal La Politique avec Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, quand Emmanuel Macron fait un concours de bluff sur YouTube, ça donne 7,5 millions de vues. Mais à quoi ça lui sert?
On vous écoute tout à l'heure.
RTL Matin.
Et sans attendre, direction Lille, Isabelle, le nouveau champion de France de football.
Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Il aura fallu attendre la dernière journée de Ligue 1, mais c'est fait. 10 ans après, le LOSC est de nouveau sacré. Les Ch'tis n'ont pas tremblé au moment décisif. Ils l'ont emporté 2-1 à Angers. Dès le coup de sifflet final, les supporters se sont rués sur la Grand Place. Normalement, c'était interdit, hein, mais on va dire qu'ils avaient des circonstances atténuantes, Franck Hanson.
Oui, l'occasion était trop belle. Ils sont des milliers sur la Grand Place. La liesse, malgré le couvre-feu.
Ça y est, on est champion. C'est fait, 10 ans après, phénoménal. Lille est en feu ce soir.
La statue de la déesse noyée dans un nuage de fumée rouge. Des jeunes Lillois, des familles avec le maillot du LOSC savourent.
Tellement, vous imaginez même pas la joie qu'on a en nous. C'est vraiment un honneur d'être Lillois. Il faut faire attention, on est toujours en période de Covid. Dès que c'est pas bien, on garde le masque, on essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai qu'avec autant de joie, c'est compliqué. Franchement, ils ont brillé.
Ça fait 10 ans que Paris rafle tous les titres. Et là, c'est vraiment une fête joyeuse, une fête bon enfant. On va s'en souvenir toute notre vie de ça.
Ça fait plus d'un an que le stade nous manque. Les festivités comme ça nous manquent. Et comme Macron l'a dit, c'est l'insouciance. Et la jeunesse aussi, beaucoup de jeunesse.
Il y a ceux qui se jettent dans la fontaine, des Turcs nordistes qui saluent leur buteur, Burak Yılmaz. Et la fierté d'avoir battu Paris et ses millions.
On prouve que le PSG, c'est que de l'argent. Et nous, c'est la passion.
C'est la victoire d'une équipe soudée surtout, qui a joué ensemble. On profite pour enfin faire la fête un petit peu.
Quelques incidents ont bien éclaté après l'évacuation, mais la fête pourra reprendre cet après-midi. Les champions de France sont attendus en bus à Impérial dans les rues lilloises.
On n'a pas fini de faire la fête à Lille. Hein. Lille qui rit et Paris qui pleure. Forcément, pas de titre cette année. C'est la troisième fois depuis que les Qataris ont pris le contrôle. Les Parisiens ont pourtant fait le job hier soir. Victoire 2-0 à Brest. Un but de Di Maria, un autre d'Mbappé. Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de la saison. Mais bon, pas facile de se réjouir.
Énorme meilleur buteur du championnat 3 fois de suite. C'est une énorme fierté. Je suis très content. Maintenant, je crois que c'est pas le moment de montrer la joie. Voilà. Il faut rester tranquille et on va rentrer tranquillement et on va se préparer pour la sélection. Je peux pas te dire ce qu'on doit faire. Je suis pas non plus, je suis que joueur. Il y a pas de soucis. Voilà, on a perdu le titre. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur.
Kylian Mbappé au micro de nos confrères de Canal+.
Et puis Isabelle, la troisième place était également disputée et c'est finalement Monaco qui a décroché le dernier ticket pour la Ligue des Champions.
Les Monégasques sauvés par un match nul 0-0 à Lens et par le faux pas de Lyon, battu 3-2 par Nice à domicile. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Grosse déception pour les Lyonnais.
Oui, à domicile, vous le disiez, contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer. C'est un camouflet qui confine à l'accident industriel pour le deuxième budget de France. Lyon champion d'automne à la trêve, souvenez-vous, Jean-Michel Aulas perd gros. Au bas mot 20 millions d'euros sans Ligue des Champions. Sa star, Memphis Depay, annoncé à Barcelone, et Rudy Garcia qui a confirmé son départ. L'OL qui devra se contenter donc de la Ligue Europa avec l'OM. Et Rennes, qui coiffe Lens sur le poteau, jouera la toute nouvelle Ligue Europa Conférence.
Et en bas de tableau, c'est finalement Nantes, hein, qui hérite de la place de barragiste.
Oui, après pourtant une remontée fantastique ces dernières semaines, les Canaries ont trébuché à domicile contre Montpellier 2-1, ce qui sauve Brest, pourtant battu par Paris, alors que Lorient et Strasbourg, comme prévu, ont assuré leur maintien avec un match nul. Nantes jouera donc sa peau en Ligue 1 face à Toulouse en match aller-retour cette semaine.
Merci Philippe Sansfourche. Je vous donne tout de même les autres résultats de cette dernière journée de Ligue 1. Saint-Etienne s'est incliné à domicile 1-0 face à Dijon. Victoire de Bordeaux à Reims 2-1. Et puis Strasbourg et Lorient ont fait match nul un partout.
Tous les scores, tous les classements évidemment. Et puis un dossier complet sur Lille, champion de France de Ligue 1, à retrouver sur l'appli RTL. Vous restez bien là dans un instant, la suite du journal d'Isabelle Choquet avec l'incroyable arrestation en plein vol d'un opposant bélarusse. On vous raconte après ceci.
Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin.
Isabelle Choquet pour la suite du journal à 7h07. C'est tout à fait inédit ce qui s'est passé hier dans le ciel européen. Un opposant politique arrêté donc en plein vol.
Le journaliste bélarusse Roman Protasevich se trouvait à bord d'un avion Ryanair parti d'Athènes pour rejoindre Vilnius en Lituanie. Un avion de chasse bélarusse a intercepté l'appareil et l'a forcé à se poser à Minsk où le militant a été interpellé. Émilie Beaujard, cette opération coup de poing est évidemment vivement condamnée par l'Occident.
Oui, plusieurs pays européens, dont la France, dénoncent un détournement inacceptable et appellent à des sanctions contre la Biélorussie. Ce sujet sera d'ailleurs discuté ce soir en Conseil européen. En attendant, personne ne sait où Roman Protasevich a été emmené, ni où il est détenu et pourquoi. Le journaliste de 26 ans avait fui son pays face à la vague d'arrestations des opposants au régime. Il était dans le viseur des services secrets biélorusses pour avoir créé un média d'opposition au président Alexandre Loukachenko, réélu pour la sixième fois l'année dernière. Son arrestation, spectaculaire et illégale pour de nombreux observateurs, vient rappeler que la Biélorussie est un régime autoritaire et répressif aux portes de l'Europe. La Lituanie a déjà fait savoir qu'elle ouvrait une enquête pour détournement et que d'autres instances internationales pourraient être saisies. Selon l'opposition biélorusse en exil, Roman Protasevich risque la peine de mort et d'être torturé en détention.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Le bilan s'est alourdi en Italie après ce terrible accident de téléphérique sur les rives du lac Majeur. Un enfant de 9 ans qui était dans un état critique a succombé à ses blessures. On compte désormais 14 morts. Le seul survivant est un petit garçon de 5 ans grièvement blessé. La chute de la cabine serait due à la rupture d'un câble qui reste pour l'instant inexpliqué. On en vient à cette information RTL. Le receleur italien de la porte volée au Bataclan a été mis en examen il y a quelques semaines. Cette porte était décorée d'une œuvre de l'artiste de rue Banksy. Après les attentats, il y avait dessiné une jeune fille triste. Elle a été volée en janvier 2019 et retrouvée un an plus tard dans un bed and breakfast dans la région des Abruzzes. Le propriétaire sera donc poursuivi, Thomas Proutot.
Oui, Giacomino P. est celui qui a stocké pendant plus d'un an la porte chargée de symboles avant sa découverte par les carabinieri en juin 2020. D'abord dans un garage à côté de son bed and breakfast des Abruzzes, puis dans une ferme des environs. L'Italien affirme qu'il n'a jamais su que le panneau de métal emballé dans du tissu venait du Bataclan. Jamais su non plus qu'il supportait une œuvre de Banksy en hommage aux victimes du 13 novembre. Dans son interrogatoire, Giacomino assure qu'il a entreposé l'objet à la demande d'un Français, un ami qui stockait régulièrement chez lui du matériel acheté en Italie en vue de la construction d'une maison. Des explications insuffisantes aux yeux du magistrat qui a mis en examen l'hôtelier italien pour le recel de l'œuvre. Mais l'enquête sur un éventuel commanditaire est pour sa part au point mort. L'ami français cité par l'italien est détenu depuis presque un an, dément formellement être le donneur d'ordre. Lui aussi assure avoir stocké la porte du Bataclan pour rendre service à des connaissances. Et d'après ses avocats, rien ne permet de l'incriminer davantage. Qui a voulu s'arroger la jeune fille triste du 13 novembre? La question reste entière.
Thomas Proutou. Au chapitre politique, Gérald Darmanin annonce qu'il va porter plainte contre Audrey Pulvar pour ses propos sur la manifestation des policiers mercredi devant l'Assemblée. La tête de liste socialiste régionale en Île-de-France avait jugé ce rassemblement assez glaçant. Propos diffamants, selon le ministre de l'Intérieur.
Et si on allait au cinéma? Car oui, maintenant on peut.
Et on ne s'en prive pas. Malgré la jauge, les amateurs de cinéma sont au rendez-vous. Les chiffres de fréquentation sont excellents. 300 000 entrées sur la seule journée de mercredi, un jour de la réouverture. Comme quoi, Sinamir, l'attente était immense.
Au point, oui, qu'à l'entrée des salles sur le trottoir, on avait presque du mal hier à distinguer l'excitation des enfants de celle des parents.
Cinéma, cinéma, heureuse.
Pourquoi je vous vois sautiller en disant cinéma, cinéma?
Heureuse. Oui, ça va bien faire un an, moi, que j'ai pas mis les pieds au cinéma, parce que j'y suis même pas allée entre les confinements. Donc c'est juste super chouette, on a l'impression d'être en vacances. Donc c'est vraiment que ça nous a manqué.
Cinéma, cinéma.
Eh bien, ça fait plaisir, on va enfin pouvoir voir d'autres choses que Netflix. Ça fait du bien, puis pas quelque chose que tout le monde a vu. Enfin, il faut se motiver pour y aller, quoi. Une volonté, voilà.
À l'affiche, on retrouve en plus des films qui n'ont pas eu beaucoup de chance, sortis juste avant le dernier confinement, comme Adieu les cons d'Albert Dupontel. Presque un goût de monde d'avant dans la salle.
Par contre, pas de pop-corn, c'est moins bien.
Pas de possibilité non plus d'arriver à la dernière minute avec les restrictions de place. Ce couple en a fait la meilleure expérience.
C'est complet là.
Ah ouais?
Vous avez essayé d'arriver un petit peu avant ou de réserver?
On est arrivé comme ça à l'arrache, comme qu'on fait tous les dimanches, mais là c'est ingérable, il y a une jauge, donc faut réserver à l'avance. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire.
Dernier conseil pour limiter les déceptions devant l'engouement effectivement retrouvé à l'entrée des cinémas.
Si on ne peut plus arriver à l'arrache au cinéma. Reportage RTL signé Sinamir.
Longchamp pour les courses, Isabelle.
Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 10, le 4, l'As, le 3, le 14 et le 9. 7, 10, 4, As, 3, 14, 9. La dernière minute de Dominique, c'est le 14, Sagatingad. Et attention dans cette course, le 2, Prince Hamlet et non partant.
C'est bien noté, Isabelle Choquet au travail. On vous retrouve à 8h tout à l'heure sur RTL. Il est 7h12. La politique Marie-Bénédicte Allaire, on a beaucoup vu Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux ces derniers temps, en particulier avec cette vidéo à l'Élysée avec McFly et Carlito. 7,5 millions de vues depuis hier matin, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. D'où est venue l'idée de cet échange improbable sur YouTube?
L'hiver dernier, Emmanuel Macron avait lancé un défi aux deux YouTubeurs. Ils devaient réaliser une vidéo pour promouvoir les gestes barrières. Et s'ils obtenaient 10 millions de vues, ils les inviteraient à l'Élysée pour un concours d'anecdotes, ce qui fut dit, fut fait.
Assez disruptif, comme disent les macronistes.
Emmanuel Macron n'est pas le premier président qui essaie de faire jeune. Vous vous souvenez peut-être de François Mitterrand disant au journaliste Yves Mourouzi que le mot « branché » s'était déjà dépassé. Ou Jacques Chirac, qui avait eu du mal à dialoguer avec des jeunes pourtant sélectionnés par ses communicants. L'époque a changé, l'objectif reste le même. Emmanuel Macron est en permanence très actif sur les réseaux sociaux des jeunes. Il en connaît les codes. Il intervient de préférence sur des sujets consensuels, comme la sensibilisation à l'autisme, en commentant les posts d'autres utilisateurs qui sont flattés d'avoir été remarqués par le président. Et l'audience est énorme auprès de la cible visée.
La vidéo d'hier, quand même, c'est du jamais vu.
Bon, effectivement, une des forces d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est aussi à l'aise devant McFly et Carlito que dans un sommet européen. C'est donc plutôt réussi sur la forme et parfois drôle. La limite de l'exercice, c'est qu'on cherche où est le message politique que le président cherche à délivrer. Et comme le but du jeu, c'est essayer de faire douter l'autre, qu'il doit se demander si ce qu'on lui raconte est vrai ou faux, je me demande si sous couvert d'humour, le président ne se tire pas une balle dans le pied, alors même qu'une partie des citoyens ne croit plus à la parole politique.
Ça veut dire quoi? Que ça manque de cohérence selon vous?
Écoutez, il y a une des anecdotes de Carlito qui raconte qu'il a conduit sous l'emprise de substances, comme il dit qu'on prenait après avoir fumé du cannabis. Peut-être pris par le jeu, le président ne réagit pas. Pourtant, la lutte contre le trafic de stupéfiants, il en a fait la mère de toutes les batailles. En réalité, l'anecdote est fausse, selon Carlito. N'empêche, il y a de quoi désarçonner jusqu'aux plus fervents supporters d'Emmanuel Macron. Ses détracteurs dénonceront au choix l'abaissement de la fonction présidentielle ou une opération de com' pour masquer un maigre bilan.
Des millions de vues, Marie-Bénédicte. Le nombre de vues est impressionnant quand même.
Pour les uns, ça rend Emmanuel Macron cool et sympa. D'ailleurs, sa cote de popularité remonte en flèche chez les 18-24 ans, mais d'autres trouvent ça démagogue. Et puis, y a-t-il un gain politique à ce genre d'opération? J'en doute. Il ne faut pas oublier que cette tranche d'âge est celle qui vote le moins et qu'un selfie, ce n'est pas un bulletin de vote.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL à 7h14.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
Dans notre brigade RTL ce matin, on va s'intéresser aux matières premières. Leur prix augmente fortement depuis plusieurs mois et elles sont pratiquement toutes concernées. État des lieux ce matin avec vous, Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
D'abord, quelles sont les matières premières les plus en tension en ce moment ?
Eh bien, il y a déjà le bois. Selon les données que nous a fait parvenir la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui a interrogé ses adhérents, les structures en bois ont par exemple augmenté de 10% ces derniers mois, plus 30% sur certains chantiers. Cela s'explique par un attrait des particuliers pour des travaux de rénovation, mais aussi par une demande très soutenue de la part des Américains notamment, qui achètent en masse du bois européen, ce qui fait mécaniquement monter les prix. Résultat, certains entrepreneurs ont du mal à se projeter et garantir des prix à plus de 6 mois. Car en effet, un chantier signé aujourd'hui à un certain prix, eh bien le temps que les travaux commencent, et si le bois est disponible, eh bien le tarif aura probablement encore augmenté et l'artisan ne s'y retrouvera plus forcément, car sa marge va baisser, d'où une vive inquiétude dans le secteur.
Dites-nous Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres matières qui sont touchées dans la construction ?
Oui, l'acier, il est en constante hausse également. En fait, lors du premier confinement, plusieurs hauts fourneaux se sont arrêtés et n'ont pas repris leur production en septembre, pensant que la demande se stabiliserait. Problème, la demande est fortement repartie et les usines peuvent mettre des semaines avant de redémarrer. Du coup, l'offre n'est pas au rendez-vous. Et cela a des conséquences. À Décines, près de Lyon, le patron d'une entreprise de métallerie a constaté une augmentation de près de 80% du prix de la tonne d'acier en un an. Enfin, un autre exemple, celui du polystyrène, son prix a augmenté de 48% en 6 mois selon la CAPEB. Il y a le cuivre aussi, depuis le début de l'année, cette matière indispensable qui est présente dans presque tous les composants électroniques. Eh bien, le cuivre est en hausse de près de 31%.
Ouais, chiffre impressionnant Arnaud. Toutes ces matières, il faut bien entendu les transporter. Est-ce que là aussi la situation est tendue ?
Oui, car les matières premières traversent le monde et sont bien souvent importées. Et à cause de la crise du Covid, eh bien le prix des conteneurs a explosé. Tenez par exemple pour un conteneur de 40 pieds. C'est la taille standard sur un bateau, selon l'index Drewry qui suit les évolutions de ce marché. En mai 2020, il fallait débourser 1 600 $. Un an plus tard, en mai 2021, c'est 6 135 $, presque 4 fois plus cher. Et les tarifs, par exemple, pour transporter du fret maritime sur la route Shanghai-Rotterdam ont bondi de 532%.
Et la France, dans tout ça, expliquez-nous, elle peut faire quelque chose pour tenter de préserver les acteurs économiques ?
Le gouvernement vient de mettre en place une médiation pour les entreprises des bâtiments et travaux publics sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. Le but est d'identifier les éventuels comportements abusifs, de sécuriser aussi les approvisionnements ainsi que l'activité des entreprises. La première réunion est d'ailleurs prévue à la fin du mois.
La brigade RTL de ce lundi matin avec Arnaud Touche. Merci Arnaud. Vous restez bien là. Dans un instant, on va se pencher sur un dossier venteux des prochaines élections. On va parler des éoliennes. À tout de suite.
Carpentier. RTL Matin, 7h-9h30.
7h19, merci à vous tous d'être là. Ce matin, on vous parle d'un objet hautement politique qui s'est invité dans la campagne des élections, les éoliennes. Partout en France, les projets de parcs éoliens suscitent souvent la crispation des riverains et ça n'a pas échappé aux candidats au régional qui entendent capter cette colère dans les urnes. C'est le cas en particulier du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen, qui veut se poser en champion de l'anti-éolien. Vous l'avez constaté, Marie Mollet, bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Côte d'Or.
Oui, à Bessé-en-Chaume, exactement. Petit hameau, 150 âmes, des corps de ferme, une église et un chien qui roupille au soleil. À l'horizon, des pales d'éoliennes qui bougent mollement et au milieu du village.
Bonjour madame, est-ce qu'il doit vous déranger ?
Julien Odoul, le candidat du Rassemblement National à la région, qui ce matin distribue son tract avec une inscription.
Votez contre les éoliennes ? Vous n'êtes pas du tout pour...
Pas du tout.
Ah bon ?
Visuellement, ça vous gêne pas ?
Oh moi non, pas du tout.
Ça apporte de l'argent aux promoteurs. Et on paye deux fois pour l'électricité ?
Bah moi je suis pas pour qu'ils les enlèvent. Hein.
Bon, raté pour cette fois-ci, mais Julien Odoul n'est jamais à court d'arguments. Depuis des semaines, il s'affiche au pied des éoliennes, se met en scène, main dans la terre, pour demander leur démantèlement. Il a placé plusieurs militants anti-éoliens sur ses listes, et quand il en parle, c'est pour cogner.
C'est moche, ça détruit la nature, c'est le mensonge, c'est l'arnaque des écolos bobos qui sont des fanatiques. Moi, ce que je souhaite, c'est véritablement un moratoire, un démantèlement et surtout qu'on puisse poser la question aux habitants, ce qu'ils veulent.
Et le candidat du RN a quelqu'un dans son viseur. La présidente de région sortante, Marie-Guide Dufay, socialiste, qui l'attaque personnellement. Elle riposte et dénonce une campagne fondée sur des contre-vérités.
Les propos de M. Odoul reposent sur du mensonge. Regardez le tract qu'il déploie en ce moment. Moi, président, j'arrêterai toute subvention à l'éolien. Il y a zéro subvention qui sont versées à l'éolien. Il n'a aucune capacité, lui, de démanteler, puisque les éoliennes, elles appartiennent aux investisseurs privés. Hein. C'est grave. C'est grave parce qu'on induit les gens en erreur.
Et Julien Odoul n'en est pas le seul à faire de l'anti-éolien un pilier de sa campagne. Partout en France, les candidats du RN et de la droite tentent d'occuper le terrain sur ce sujet.
Marie, on a envie de savoir, est-ce que cette guerre contre les éoliennes peut payer électoralement ?
Alors pour le savoir, je me suis rendue à Saint-Jean-de-Beu, petit village, 110 habitants et des vignes. 18 éoliennes pourraient pousser à proximité. Le projet est à l'étude. Le RN est allé tracter le matin même. Visiblement, il a fait mouche chez Anne.
Ah ben, enfin quelqu'un qui se soucie du problème. Ah, moi, c'est une nuisance visuelle, sonore. C'est... Moi, là, j'en veux pas. Puis c'est bien de les amener à la campagne. C'est vrai que c'est très moche, mais c'est bien chez nous. Hein, on voit pas ça à l'entrée des villes.
Ce tract et cette thématique-là peut influencer votre vote pour les régionales.
Ah ben moi, clairement.
Mais l'argument ne séduit pas partout. Dans le hameau, certains habitants y voient une manœuvre politique un peu trop grossière à leur goût.
Si je vous montre ce tract,
ça m'inspire de la récupération de tout et n'importe quoi.
Il faut savoir ce que l'on veut, si on veut une énergie propre ou si on veut des centrales nucléaires.
Le Rassemblement National, je vois vraiment pas le rapport, quoi. Les éoliennes, rien à voir.
Effectivement, on peut se poser la question, Marie, entre RN et éolienne, quel est le rapport? Pourquoi le parti de Marine Le Pen en parle-t-il autant?
En fait, l'éolien recoupe plusieurs thèmes de campagne très classiques du Rassemblement National. D'abord, l'opposition entre ville et campagne, entre le système écolo-bobo, vous l'avez entendu, et les ruraux, les territoires périphériques. Ensuite, il y a l'idée du protectionnisme, du nationalisme économique contre les riches promoteurs étrangers. Et puis enfin, il y a un parallèle assez étonnant, très répandu dans les rangs du RN, entre éoliennes et migrants. Marine Le Pen l'avait dit elle-même, les éoliennes, c'est comme les migrants, ça ne dérange pas tant que ça n'est pas à côté de chez soi. Alors on a demandé à Julien Odoul d'expliciter ce parallèle.
Le seul lien qu'on peut relever, c'est ce qu'on impose à la ruralité. On installe des centres de migrants et on installe des parcs éoliens. C'est sûr que dans le 16e arrondissement de Paris, les éoliennes, voilà, il n'y en a pas à côté, on n'en voit pas à côté de la Tour Eiffel.
Donc on l'entend, le RN se pose en défenseur de la ruralité. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve son vivier électoral. C'est ce que me disait une tête de liste dans une autre région. Je fais une campagne 100% rurale, je ne m'embête même pas à essayer de parler aux métropoles. Et la bataille contre l'éolien, c'est l'un des outils pour aller chercher cet électorat rural.
Les éoliennes attisent les braises de la campagne des régionales. Enquête long format signée ce matin. Marie Mollet du service politique de RTL. Merci Marie, vous restez bien là. Réveil musical dans un instant avec notre pépite. À tout de suite.
RTL Matin. Toujours avec vous. L'amour dans les TL Matin. Stéphane Carpentier.
7h26, c'est l'instant où on fait plaisir à nos oreilles. La pépite d'Anthony Martin, bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une légende de la musique, Bob Dylan, à 80 ans ce 24 mai. Ces 30 dernières années, Dylan s'est construit une véritable discographie parallèle en publiant régulièrement des archives, des enregistrements pirates, des titres inédits, des moments de studio qu'on ne retrouve pas sur ses albums. Bref, une mine d'or. Il y a déjà 15 volumes. Le dernier en date est sorti en début d'année et il dévoile une séance d'enregistrement que les fans considèrent comme mythique. Le 1er mai 1970, Bob Dylan avait réservé le studio B des disques Columbia à New York et son ami Beatles, George Harrison, l'avait rejoint pour un échange musical, un moment de plaisir. Leur idée n'était pas du tout de graver un disque, l'ambiance était relâchée, la technique imparfaite, mais les micros tournaient. Yesterday, all my troubles seem so far away. Et au cours de la session, Bob Dylan s'est lancé avec les musiciens dans une reprise improvisée de la chanson Yesterday des Beatles devant George Harrison. C'est notre pépite du jour, Dylan fait du Dylan sur Yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Suddenly, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Voilà, c'est un document enregistré en mai 1970 par Bob Dylan en présence de George Harrison quelques semaines après l'annonce de la séparation des Beatles. C'est une des raretés du coffret Bob Dylan 1970.
On adore Louis ça.
Ah,
Louis Bonin est valide complètement. Merci pour ce moment, la pépite d'Anthony Martin. En podcast, très vite, sur l'appli RTL. La garantie, bonne humeur sur RTL, diffusion de rire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, dès 15h30, ça peut donner ceci.
Dors, mon petit quinquin, mon petit poussin, mon gros rochin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain.
Oh, j'adore.
Ah non, mais c'est incompréhensible, hein. Si tu me laisses faire un bon semaine, j'irai dégager tes biosirops, tes pantalons d'hydrat, ton gilet de laine, comme tes pilotes minots, t'auras fourrou.
Ariel, t'es prête, je t'emmène, te présente ma mère, viens y va.
C'est Bernard Rochetti-Lévy.
Laurent Ruquier, les grosses têtes, le rendez-vous de l'après-midi à 15h30. La météo, Louis, donc, on a sur Twitter Benji qui nous signale des nuages à Bordeaux.
Oui, bah, il y en a partout, hein, de toute façon, quasiment, donc c'est pas très original, avec une perturbation qui est actuellement entre, justement, le nord de l'Aquitaine et la frontière belge, en passant par l'Île-de-France, le centre, le Limousin, par exemple. Cette perturbation, cet après-midi, va arriver sur les Pyrénées et sur les frontières de l'Est avec des nuages de la pluie, puis après son passage à l'arrière, on retrouve ce ciel que l'on connaît depuis des jours et des jours, avec cette alternance, passage nuageux, éclairci, averse, accompagné d'orages, vent fort, 90 km par heure au moins sur le littoral breton, mais également dans l'intérieur des terres, 70-80 km/h. Seule exception dans cette humidité encore, un peu autour du golfe du Lion, dans la basse vallée du Rhône, on aura un peu de soleil, parce qu'il y aura aussi des averses entre les Alpes et la Corse, avec de la neige en montagne, et les températures toujours pas de saison. 13 à 16 degrés cet après-midi dans la moitié nord, il manque 6 degrés pour être dans les valeurs de saison, 16 à 17 dans le sud-ouest, et 20 à 24 près de la Méditerranée.
Le bout du tunnel, jeudi.
Oui, quand même.
Promis.
Oui, deuxième partie de semaine, ça va aller vraiment beaucoup mieux. C'est pas compliqué, vous me direz, mais ça va aller mieux.
Louis Baudin, il est 7h30.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier
et Alexandre de Saint-Aignan pour le Tout Info, pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 24 mai. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Sans aucun doute, la saison la plus courte et la plus tardive dans l'histoire des stations de ski depuis hier. À la faveur d'un enneigement exceptionnel, Serge Pueyot, la station de Laclusaz en Haute-Savoie a ouvert ses pistes gratuitement à un millier de skieurs et vous aussi, vous avez pu en profiter.
Voilà, je suis maintenant au sommet du col de Balme à 2600 mètres d'altitude. Un panorama extraordinaire sur toutes les montagnes, beaucoup de neige, un ciel bleu, le soleil, le rêve. C'est parti pour la descente. Il y a de la poudreuse, de la bonne puff comme disent les montagnards. Voilà, je retrouve des skieurs, bonjour.
C'est génial, mais ça faisait longtemps qu'on attendait ça, du coup c'est top.
Je viens de voir un skieur en t-shirt.
Je suis en t-shirt et en short, il fait un temps magnifique, on profite d'un grand soleil, la vue est dégagée. C'est une journée magnifique.
Là, je suis avec Heidi qui a 11 ans. On est en train de descendre. C'est comment, Heidi ?
Oh, c'est trop bien. Ça m'a manqué les télésièges, la neige, le ski, tout ça. Ouais, wouh !
Bien, je m'arrête parce que je vois un moniteur, là, de la Clusaz. Alors, bonjour, monsieur.
Bonjour. Michel Ruffy, 66 ans. Ah, c'est merveilleux aujourd'hui, c'est super. On ne peut pas espérer mieux pour un 23 mai aujourd'hui.
Vous avez déjà vu autant de neige au affamé ?
Pas comme ça, quand même. Hein.
Voilà, la descente s'achève et on n'a qu'une seule idée en tête. Eh bien, c'est de reprendre le télésiège pour en faire une autre.
Ça tombe bien, Serge Pueyot. Les pistes sont encore ouvertes aujourd'hui pour le dernier jour de cette saison qui aura donc duré 2 jours.
Et en plus, c'est gratuit. Hein. De la neige un 24 mai au sommet des Alpes et puis un gros coup de chaud dans le nord.
Après la victoire du LOSC 2-1 face à Angers qui permet aux Lillois de remporter leur 4e titre de champion de France de football, les joueurs ont laissé éclater leur joie dans le vestiaire. Voilà des joueurs qui sont ensuite passés devant les journalistes pour répondre à quelques questions, c'est la tradition. Le capitaine de Lille, José Fonte, n'avait qu'une seule hâte, rentrer dans le Nord pour retrouver les supporters.
Laisse-moi partir parce que je veux être à grande place avec tout le monde. J'habite à côté. On va revenir très vite parce que le football sans les supporters c'est rien.
Voilà, José Fonte avec Thierry Lardeux. Les Lillois ont ensuite pris l'avion. Ils sont arrivés dans la nuit. De nombreux supporters avaient bravé le couvre-feu pour les accueillir. Une fête jusqu'au lever du jour. Sur les milliers de personnes présentes, 7 ont été interpellées.
Un titre de champion de France qui échappe donc au Paris Saint-Germain.
Pourtant vainqueur hier soir 2-0 face à Brest, le PSG est deuxième, Monaco troisième après son match nul 0-0 contre Lens. Lyon termine au pied du podium après une ultime défaite face à Nice 3-2. L'entraîneur Rudy Garcia a confirmé son départ du club.
C'est une grande désillusion. Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des Champions et c'est pas le cas. Comme je l'ai dit aux joueurs à la fin du match, je pense qu'on est à notre place et qu'on mérite pas d'aller en Ligue des Champions. Et c'est que de notre faute et la mienne bien évidemment aussi. Donc, bien sûr que je ne serai pas là la saison prochaine. Je ne suis pas candidat à ma propre succession.
Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL. Marseille, cinquième après un match nul un partout face à Metz. Le FC Nantes se retrouve menacé de descendre en Ligue 2. Battu par Montpellier 2-1 hier soir, les Nantais joueront le match de barrage contre Toulouse.
Tous les scores, tous les classements, évidemment, et un gros dossier sur Lille, champion à retrouver sur l'appli RTL. Dans l'actualité également aujourd'hui, Alexandre, la colère de l'Europe après une arrestation particulièrement spectaculaire en Biélorussie.
Le régime biélorusse est accusé d'avoir détourné un avion de ligne pour permettre l'interpellation d'un opposant politique. Roman Protasevich se trouvait à bord d'un vol Ryanair entre Athènes et Vilnius. L'appareil a été forcé de se poser en urgence à Minsk, où cet ancien rédacteur en chef d'un média d'opposition a été immédiatement arrêté. Andrei Vaitovich est l'un de ses amis.
Il a quitté le Bélarus, il s'est réfugié en Pologne. Il était notamment le cofondateur de la chaîne Telegram Nexta, qualifiée par le régime comme une chaîne extrémiste, fichée par le KGB comme une personne potentiellement susceptible de commettre les actions terroristes. Là, c'est la peine des morts qui existe encore en Bélarus. On ne sait pas où il se trouve actuellement. Il ne sera pas sans doute demain, ni après demain, parce qu'au Bélarus, aujourd'hui, les gens qui sont arrêtés disparaissent. Nous, les Bélarusses qui sont en exil, on pensait qu'une fois en Europe, nous sommes épargnés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, Loukachenko a même dépassé Poutine. C'est dramatique, en tout cas pour les journalistes, mais pour tout le monde, en fait.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. L'Union européenne dénonce une action complètement inacceptable et évoque des possibles sanctions. L'émotion en Italie après un accident cauchemardesque sur les bords du lac Majeur. 14 morts, un blessé grave, un enfant. Suite à la chute d'une cabine de téléphérique dans une station balnéaire du Piémont, le câble se serait rompu sur la partie la plus haute du parcours pour une raison encore inexpliquée.
Merci Alexandre, le Tout Info de RTL. Il est 7h36 à suivre. Restez bien là, L'Angle Écho. Bonjour François Langlais.
Bonjour.
Et ce lundi, rien ne va plus, faites vos jeux.
Et oui, ils sont plutôt bien faits pour ceux qui ont acheté des actions de la Française des Jeux. J'espère que c'est votre cas parce que vous allez vous voir, on va vous remettre des actions gratuites. Privatisation fructueuse pour les épargnants qui sera sans doute la seule du quinquennat.
On fait les comptes juste après ça et on vous écoute. À tout de suite François.
À tout de suite.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
À 7h38, L'Angle Écho avec François, donc nous sommes en mai, et pourtant le Père Noël arrive pour les actionnaires de la Française des Jeux.
En effet Stéphane, c'est peut-être à cause de la météo froide, mais c'est vrai que les quelques 500 000 petits porteurs qui ont acheté des actions de la Française des Jeux vont recevoir des titres gratuits de la part de l'État, 1 pour 10 détenus depuis la privatisation de cette entreprise il y a 18 mois. C'est le tarif habituel pour les privatisations, hein. C'est un bonus destiné à attirer les épargnants afin qu'ils achètent les entreprises que l'État met en vente.
C'est une bonne affaire cette privatisation, non ?
Ah très bonne, très bonne. Depuis la privatisation, le cours de la FDJ a été multiplié par 2. Et à ça s'ajoute ce fameux bonus de 10% sous la forme d'actions gratuites. En fait, le cours de l'action n'est descendu en dessous de son prix d'introduction, celui auquel les épargnants l'ont acheté, que de façon très très momentanée, c'était au début de la pandémie l'année dernière.
Ça veut dire François que la FDJ a bien résisté ?
Vraiment très bien. En 2020, l'entreprise a dégagé des bénéfices importants malgré la crise sanitaire. Et au premier trimestre de cette année, le loto, l'euro-million, les paris sportifs ont généré des mises supérieures de 12% par rapport à 2020, qui avait été marqué par l'apparition du virus, et même supérieure de 6% à 2019, une année normale. Et ça, malgré le couvre-feu, malgré la limitation des déplacements. Les Français jouent toujours énormément. Et ce sont les ventes en ligne qui ont littéralement décollé, plus 90%, avec une forte augmentation du nombre de joueurs. Inutile de dire que les perspectives sont bonnes avec l'euro de football qui s'accompagne en général d'un surcroît de paris sur les résultats de match.
Évidemment, François Langlais, quel est le calendrier des prochaines privatisations ?
Eh bien, figurez-vous qu'il n'y en a plus. Le gouvernement envisageait de vendre Aéroports de Paris, qui gère Orly et Roissy. Il a abandonné ce projet. Projet qui suscitait d'ailleurs pas mal d'hostilité. Il souhaitait également vendre une partie de ses actions dans Engie, c'est l'ex-Gaz de France. Mais là encore, le projet est en carafe. Et pas question d'entreprendre ça avant l'élection présidentielle. Au total, Emmanuel Macron sera certainement le président qui a le moins privatisé depuis François Mitterrand.
Et ça, c'est un peu paradoxal, non, de la part d'un homme qui se dit libéral.
Ah, c'est très inattendu. Et pire, non seulement il n'a pas privatisé, mais il a en fait nationalisé deux entreprises significatives, Air France, au moins partiellement, et puis les chantiers navals STX qui vont rester propriété de l'État finalement. Tête à queue idéologique, tout aussi surprenant que celui, il y a 25 ans, de Lionel Jospin qui avait été le chef de gouvernement qui avait le plus privatisé depuis François Mitterrand également, alors qu'il semblait plutôt hostile à ça. Ça montre, Stéphane, que par-delà les convictions d'un responsable politique, eh ben, il y a l'esprit des temps. Et c'est l'esprit des temps qui prévaut. Il y a 25 ans, on était encore dans la grande vague de privatisation mondiale initiée par Reagan et Thatcher au début des années 80. Ben, cette vague libérale, elle est aujourd'hui épuisée. Et tout le monde se soumet à l'inversion du cycle idéologique.
L'angle écho, merci François Précieux. Décryptage à retrouver évidemment très très vite en podcast sur l'appli RTL. À demain François Langlais.
Bonne journée.
L'invité de RTL Matin, c'est à suivre. Bonjour à vous Alba Ventura.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Face à vous ce matin,
Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, il dirige la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, et il publie le 21e siècle du christianisme aux éditions du Cerf. En ce lundi de Pentecôte, on va s'interroger sur le retour du religieux.
Alba Ventura pour l'entretien du matin, c'est dans un instant, à tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Bon réveil à vous tous, il est 7h43. Alba Ventura, votre invité ce lundi de Pentecôte, et donc Dominique Régnier.
Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Alba Ventura.
Alors vous publiez le 21e siècle du christianisme aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage collectif avec plusieurs chercheurs, sociologues, théologiens qui participent pour engager le débat. André Malraux disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Il ne s'est pas trompé.
Non, il ne s'est pas trompé du tout. C'est tout à fait stupéfiant même à quel point il a eu raison. Et je sais qu'en disant cela, pour beaucoup d'auditeurs dans ce pays, la France, il y a une espèce de surprise, parce qu'on est assez convaincu en France que c'est au fond qu'on vit la fin du cycle religieux. C'est une idée très française, européenne, mais particulièrement française.
En tout cas, on a eu le sentiment à un moment que la religion reculait.
Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est le contraire qui se passe. Dans le monde, c'est évident, mais même en France, c'est un mouvement inverse qu'on observe aujourd'hui, avec un retour du religieux à travers, par exemple, l'islam, qui est bien sûr une religion et qui se développe, mais aussi à travers d'autres formes de christianisme, notamment le protestantisme évangélique, qui est très, très actif en France. Et à l'échelle du monde, il n'y a jamais eu autant de religieux, jamais eu autant de croyants.
D'ailleurs, la première religion au monde, c'est laquelle ?
C'est le christianisme.
Suivi de
De l'islam.
Et ça représente combien de personnes ?
Alors, 85% de l'humanité interrogée déclare une affiliation religieuse, déclare une appartenance religieuse.
85% ?
Voilà, 85%. Donc c'est
énorme.
C'est considérable. Et quand on regarde les proportions, alors ce sont des choses difficiles à mesurer, mais on le fait, quand on regarde les proportions, il n'y a jamais eu autant de croyants dans l'humanité à proportion. C'est pas simplement parce qu'on est plus nombreux sur Terre, pour que ce soit clair. Mmh. Hein. C'est parce qu'il n'y a jamais eu non plus autant de croyants parmi les humains qu'au XXIe siècle, en fait.
C'est le signe de quoi, ça, Dominique Régnier ?
Alors, il y a des facteurs qui sont liés à des situations économiques et sociales. On sait, par exemple, qu'on est plus religieux dans un univers égotropique, c'est-à-dire un univers où on est exposé soi-même, sa sécurité n'est pas assurée, ou dans des univers sociotropiques, des univers où, socialement, économiquement, parce qu'il y a des problèmes économiques, d'insécurité, si vous voulez, on est porté vers le religieux. Donc, en gros, la pauvreté aussi, hein, les pays pauvres sont des pays plus religieux, et dans les pays riches, les couches plus pauvres sont plus religieuses aussi.
C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des peurs, et on sait combien les peurs traversent ces temps mouvementés.
Exactement.
La religion réapparaît.
Exactement.
La pandémie, alors, du coup, bah, ça réactive ?
Oui, moi je le crois, en tout cas, la pandémie va être un des facteurs qui va réactiver la crainte existentielle, en fait, des interrogations sur la vie et le futur. Mais on l'avait déjà avec la question du climat, à mon avis. Ce sont des éléments dans nos sociétés qui nous amènent à réfléchir à la fragilité du vivant, à la vulnérabilité des êtres, y compris d'ailleurs de tous les êtres, y compris les non-humains, si je puis dire, hein, le monde animal, le monde végétal. On sent bien qu'il y a une sensibilité nouvelle à ce sujet. Pour moi, c'est une forme de retour du religieux. Il n'y a pas nécessairement toujours une référence que l'on peut appeler extramondaine, c'est-à-dire la référence à un dieu créateur, mais il y a une sensibilité nouvelle à la fragilité de la vie.
Oui, mais ça veut dire aussi que on peut plus se raccrocher aux politiques. Ça veut dire que le politique recule ?
C'est une question profonde. Ça veut dire qu'en effet, nous sommes aujourd'hui dans une période où la promesse politique, ce qu'on a même appelé parfois la religion politique, les grandes idéologies, sont en retrait, en recul. Elles ont déçu ou elles ont montré leurs limites. Et on se trouve donc au XXIe siècle, dans une période où on pensait être sorti du religieux et rentré dans l'âge de la politique, et c'est le contraire qui se passe. On sort plutôt des grandes idéologies et on se retrouve avec un monde plus religieux. On va demander sans doute collectivement aux religions de fournir des réponses que les politiques, les idéologies n'arrivent plus à fournir.
D'ailleurs, on a sans doute le pape, le pape François, le plus politique qu'on ait jamais eu, il me semble. Il a pris position dernièrement pour l'accueil des migrants. Ça a un impact, ça ?
Ça a un impact très important.
Ça montre quoi ? Une imbrication ou de toute façon, ça vous paraît naturel ?
Ah non, ça me paraît absolument naturel. Après, les propos du pape François divisent beaucoup, même le monde chrétien, comme vous le savez. Mais c'est tout à fait naturel et très sain que la religion exprime un point de vue sur le monde, soit même une instance de jugement de la politique. Ça participe de l'esprit critique de la cité. C'est d'ailleurs une des caractéristiques, là, c'est proprement le christianisme, que de se considérer comme à distance du pouvoir politique. Et étant à distance du pouvoir politique, parce que les individus, par exemple, sont chrétiens, ils ont un jugement de chrétien, de ce qui se passe dans la société, de ce que fait la politique, et ils peuvent être même des opposants. C'est la raison pour laquelle, en Chine, ils sont persécutés, parce qu'ils sont une instance qui vient dynamiser la société civile, ce que le pouvoir chinois ne veut surtout pas. Donc il y a bien cette dimension dans les propos du pape François, dans son attitude, cette dimension critique qui est interne au christianisme, mais qui suppose d'être séparé du politique. Surtout, ne pas les confondre.
Vous disiez tout à l'heure que l'islam gagnait du terrain. On entend ici en France, certains disent, la France doit redevenir chrétienne. C'est un vrai débat, ça ?
Alors, c'est une formule étrange parce que, de mon point de vue, elle l'est toujours. Le christianisme en France, il est très présent. L'ancienneté du christianisme en France, c'est une profondeur inouïe. On le voit, par exemple, à l'émotion collective suscitée par le désastreux incendie de Notre-Dame de Paris. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et le christianisme n'est pas nécessairement une pratique religieuse chrétienne classique. Ce sont des formes culturelles. C'est présent, d'ailleurs, dans notre tradition politique, y compris démocratique et républicaine. Même la séparation du politique et du religieux est une idée chrétienne. L'égalité, dignité des individus, l'égalité homme-femme, l'universalisme, ce sont des idées chrétiennes. Elles ne sont pas que chrétiennes, mais elles sont largement chrétiennes. Et donc, c'est partout que nous trouvons le christianisme, y compris sous sa forme religieuse et pratiquante. Mais il est vrai que on rentre dans une société qui interroge davantage le religieux. Et puis il y a aussi, et en France vous le disiez, Alba Ventura, il y a aussi l'islam, religion sinon nouvelle, du moins dans un nouveau déploiement, mais qui peut aussi amener à une sorte de renaissance du christianisme dans la relation avec le monde musulman.
La laïcité est indispensable ? Vous venez de faire référence à la séparation l'Église et de l'État. C'est indispensable dans une démocratie ?
Il n'y a pas de démocratie si le politique et le religieux ne sont pas séparés. S'ils ne sont pas séparés, donc ils ne font qu'un, c'est ce qu'on va appeler un système soit théologico-politique, c'est le modèle de l'islam, qui voudrait que la religion gouverne la société, soit un modèle totalitaire, c'est le modèle chinois, qui voudrait que l'État gouverne la religion. Et dans les deux cas, que ce soit l'État qui gouverne la religion ou la religion qui gouverne la société, nous n'avons pas cette séparation qui permet justement d'installer la critique du pouvoir, et une société libre, et donc c'est le modèle inévitablement de la séparation, enfin inévitablement, nécessairement de la séparation.
On peut être voilé et républicaine, Dominique Régnier.
Alors on peut être voilée et républicaine au sens où, si j'imagine une française musulmane voilée, elle peut avoir le désir de soutenir un régime républicain. Maintenant, la question qui peut porter sur la manifestation des signes religieux, non pas simplement le voile, à l'école ou dans le périmètre de l'école, pose le problème de la neutralité, du prosélytisme, parce qu'évidemment les signes religieux sont des formes de prosélytisme. On cherche à persuader l'autre de son appartenance religieuse, et là on est très vite, on passe du côté de la transgression, je dirais, de la séparation du politique et du religieux.
Dominique Régnier, je questionne aussi le politologue. On sait qu'il y a des raisons économiques et sociales à la montée du Rassemblement National. Est-ce que cela s'explique aussi par la crispation religieuse?
Ça, c'est en tout cas une explication fondamentale pour moi, est ce que j'appelle la crise patrimoniale, c'est-à-dire le sentiment que notre style de vie est menacé, que les traditions sont abîmées, que la manière que ce pays avait de vivre, y compris son paysage architectural, y compris les tenues vestimentaires, que tout ceci, étant peu à peu bouleversé, conduit à l'expérience douloureuse chez beaucoup de nos compatriotes, et cette douleur, elle est sous-estimée, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte, on peut la juger d'une manière ou d'une autre, mais elle est importante, le sentiment douloureux d'une perte de pays. J'habite ce pays et je ne le reconnais plus, je ne suis plus chez moi dans mon pays. Cette espèce d'antienne qui souvent fait l'objet de jugements méprisants, voire agressifs, et pourtant l'expression d'une douleur très profonde, d'une souffrance qu'il faut traiter, c'est un des principaux foyers, je dirais, de la poussée de ces partis que l'on dit, que je dis aussi moi, populistes, que ce soit en France ou en Europe.
Ça, c'est un levier.
Ah, c'est un levier prodigieux. Évidemment, ces entreprises politiques n'ont aucune solution à proposer, ni aucun discours cohérent à tenir, mais elles représentent, ces entreprises politiques, ces partis-là, représentent une souffrance qui est très répandue aujourd'hui dans le monde occidental, dans le monde européen et en France en particulier.
Mais ça veut dire qu'il faut prôner plus d'intégration. Certains maintenant reviennent sur le mot assimilation.
Oui, ce sont des... De toute façon, il n'est pas possible de souhaiter accueillir des migrants et de ne pas souhaiter les intégrer. Si nous souhaitons accueillir les migrants, et l'accueil est une nécessité, est un devoir, si nous souhaitons accueillir des migrants, il faut d'une part accepter un principe de régulation et de limitation et une obligation d'intégration. Sinon, il n'y aura plus d'accueil possible parce qu'il sera rejeté tant ce sera difficile ensuite de coexister.
Le Rassemblement National peut gagner des régions. Je vous pose la question, Dominique Régnier, parce que vous avez été tête de liste aux dernières régionales et c'était en Occitanie, sous l'étiquette LR-UDI. Est-ce qu'une région comme l'Occitanie peut basculer ?
C'est peut-être pas l'Occitanie qui peut le plus basculer, même s'il y aura sans aucun doute une poussée du vote RN en Occitanie, et en particulier dans l'ancienne partie Languedoc-Roussillon, qui est devenue une terre du Rassemblement National sur le plan électoral. Mais la région PACA, si j'avais à faire un pari aujourd'hui, je prends ce risque, Alma Ventura, on verra bien, mais je dirais qu'elle...
C'est noté. Hein.
Voilà, on pourra se moquer de mon pari. Et il me semble qu'elle est prête à basculer, oui.
Une région, vous pensez, le Rassemblement National peut remporter
oui, la région
une
PACA,
région
mais celle-ci. Peut-être même davantage, hein, mais au moins la région PACA. Mais il y aura de toute façon une poussée du vote RN aux élections régionales.
Merci beaucoup Dominique Régnier.
Merci, Alba,
je rappelle votre ouvrage, Le 21e siècle du christianisme, aux éditions du Cerf, avec de nombreux théologiens, sociologues, chercheurs, politologues, sous votre direction. Merci beaucoup.
Merci Alba Ventura.
Merci à tous les deux. Merci Alba. Entretien évidemment du lundi qu'on peut réécouter en podcast sur l'appli RTL. Merci à vous tous d'être là. Il est 8h05 ou presque. Dans un instant, le surfeur de l'info, comme tous les matins. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Et vous surfez avec ?
Ah bah c'est lundi de Pentecôte. Ouais. Lundi de Pentecôte.
Voilà. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Cyprien Sini, vous surfez donc ce lundi matin avec le lundi de Pentecôte.
Ben oui, vous êtes là, vous.
Oui.
Vous, c'est Stéphane Carpentier.
C'est ça.
C'est pas Yves Calvi.
Non.
Ah, mais c'est parce que c'est férié. ou alors, c'est pas férié. Ben, on sait pas, en fait, avec la Pentecôte. Et oui, quand les DRH et ceux qui font les plannings voient le lundi de Pentecôte se profiler. Les gouttes de sueur commencent à perler. Le tableau de service ressemble à un sudoku niveau expert. Et tout ça à cause de 2004.
Le lundi de Pentecôte, tous contribuent à la journée de solidarité créée par Jean-Pierre Raffarin.
Et Jean-Pierre Raffarin, vous connaissez l'histoire, hein ? Pentecôte, plus férié, puis 4 ans plus tard.
Un petit tour et puis s'en va. Le lundi de Pentecôte redeviendra finalement un jour férié.
Ah, Pentecôte redevient férié et puis finalement...
Férié ou pas férié, en fait c'est très simple la règle, c'est qu'il n'y en a pas.
Eh ouais, donc résultat. Chaque année,
c'est un bordel.
Hop, 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 attention au vocabulaire. Disons que c'est compliqué, quoi. Après, de toute façon, hein, nous enlever des jours fériés à nous les Français.
Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Ah, tu m'étonnes, hein. Chaque année, ils essaient des propositions plus ou moins probables, hein, florilège.
Le MEDEF propose la suppression de 2 jours fériés.
Ou au contraire, un jour férié en moins.
Je sais que je vais être un peu impopulaire, mais tant pis, je pense qu'on pourrait quand même y réfléchir.
De supprimer la première semaine des vacances de la Toussaint.
C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse.
Et on l'assume, parce que nous, comme le regrettait Bézu, on le crie haut et fort. Toujours j'y pense, ça me fait patienter. Et c'est sûr qu'en apprenant ça dès la maternelle, ça nous conditionne pas vraiment à la semaine de 50 heures. Puis alors, cette année, hein, le 1er et 8 mai, c'est tombé férié, c'est tombé samedi. Donc on n'a pas été gâtés. Du coup, cette année, chacun bricole son lundi de Pentecôte un peu comme il le peut. D'ailleurs, si on bricole sur les plannings aujourd'hui, ben c'est peut-être pas un hasard. Et oui, car ce 24 mai, c'est aussi...
Salut les bricolos.
Salut les bricolos, c'est la journée mondiale du bricolage. Eh oui, et c'est bien connu.
Les Français sont des fous de bricolage.
Tu m'étonnes, c'est vrai qu'à y regarder de plus près, on bricole vraiment avec tout en fait, hein. Même avec les jours fériés finalement.
Vous étiez dans quelle maternelle pour chanter du Bézu ou...
J'étais à Marseille.
Et les jours fériés, tous les jours j'y pense. Vous la connaissez quand même?
Ouais, je la connais.
Bah, évidemment.
Le surfeur de l'info, c'est Cyprien Signy, juste avant 8h.
Terminé.
7h58, on y va pour le ciel de ce lundi. Louis Baudin, d'abord, est-ce qu'il y a des endroits où il va y avoir de la lumière?
Oui, il y a des endroits où il va y avoir de la lumière. D'ailleurs, on l'a plus vite fait de dire les endroits où il y aura de la lumière parce que ça va pas être très fréquent. Il y en aura un petit peu près des Pyrénées, là, vers le Pays Basque. On peut espérer là avoir quelques éclaircies, surtout cet après-midi durable. Et puis surtout près de la Méditerranée, encore une fois, dans la basse vallée du Rhône, Provence, Languedoc-Roussillon, sur le littoral. Là, on devrait conserver un ciel dégagé avec un petit peu de mistral et de tramontane. Ailleurs, eh ben, on n'oublie pas le parapluie parce qu'à un moment ou un autre, on va se prendre une bonne pluie, avec parfois de l'orage, avec parfois de la grêle, avec parfois également du vent fort, notamment sur la moitié nord. Une perturbation va glisser vers l'est et le sud. Des averses également entre les Alpes et la Corse sous forme de neige au-dessus de 2000 mètres dans les Alpes. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de neige ces derniers jours. Et puis les températures, bah, encore une grande, grande fraîcheur hein, ce matin. Tiens, 4 degrés à Nancy et à Dijon. On est quand même fin mai. Hein. Faut s'en rappeler régulièrement parce que quand on regarde dehors, on se dit on est au mois de mars. 5 degrés à Vichy, à Épinal, ou encore à Brive. Et cet après-midi, 13 à 16 degrés. Ça aussi, des températures quasiment de mois de mars. 16 à 17 degrés dans le sud-ouest et 20 à 24 degrés quand même près de la Méditerranée. Et là, c'est un peu mieux.
On s'accroche 3 jours et après, c'est mieux.
Voilà, c'est ça. À partir de jeudi, on mise tout sur la fin de semaine où là, on va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé. Et surtout, les températures vont remonter en fin de saison. Ouf. Plus de 20 degrés dans la moitié nord et au moins 25 dans le sud.
Un petit cadeau pour Louis Baudin. Merci d'être là. Bonjour à tous ceux qui ouvrent les yeux. Vous avez fait le bon choix, vous écoutez RTL. Il est 8h.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
Et à 8h, c'est Isabelle Choquet qui m'accompagne pour toute l'actualité. Bonjour Isabelle.
Et bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, des ch'tis en or.
10 ans après le LOSC est de nouveau champion de France de foot. Énorme fiesta toute la nuit et ce n'est pas fini. C'est le succès des joueurs bien sûr, mais aussi de leur entraîneur Christophe Galtier. À part ça, il y a le PSG défait, Lyon qui rate la Ligue des Champions et Nantes barragiste. À suivre également l'arrestation en plein ciel d'un opposant bélarusse. Témoignage dans ce journal d'un passager. Il parle d'une scène de film. Le plastique, c'est fantastique, mais ça coûte de plus en plus cher. La crise fait flamber le prix des matières premières. Et puis l'Eurovision en plein psychodrame. Le vainqueur est soupçonné de dopage.
Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est 8h20. Le docteur Simès sera là pour nous parler de la fatigue et comment y faire face.
RTL Matin.
Les plus hauts de France, c'est le titre de l'équipe ce matin pour saluer le Sacre de Lille, de nouveau champion de France 10 ans après. Toute la nuit, les supporters nordistes ont repeint le ciel en rouge à coups de fumigène. Qui qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Hier soir, la Grand Place était noire de monde malgré le couvre-feu et les plus acharnés ont accueilli les nouveaux héros à l'aéroport au petit matin. Une grande joie et un soulagement aussi. Hein. Il aura tout de même fallu attendre l'ultime journée et une victoire de but 1 à Angers. Épilogue logique d'une saison parfaitement menée par un Christophe Galtier très ému hier soir.
J'aurais jamais pensé que je pouvais être un des acteurs de ce genre de scène-là. Et à chaque fois que je regardais ça devant mon écran, je me disais, mais ils ont raison d'en profiter, de partager ces moments-là, parce que ça passe vite. Mais on a passé du temps sur le terrain, passé du temps dans le vestiaire, et je pense que sur les prochaines 24 heures, on va passer beaucoup de temps ensemble. J'aimerais que mes joueurs profitent de ce moment-là. Ça arrive rarement dans une carrière. Quelquefois, les jeunes pensent que ça peut se représenter, mais ce n'est pas évident. Et on va, sur les 24 heures qui arrivent, évidemment, fêter ce titre, partager, échanger, rire, pleurer, un peu boire, chanter, crier. On va faire la fête, quoi.
Ça, ils vont faire la fête, c'est certain. Christophe Galtier au micro RTL, Thierry Lardeux.
Un coach clé de voûte de la réussite lilloise.
Oui, on vient de l'entendre, ému, impressionné. Il est impressionnant aussi. Hein. Je me tourne vers vous, Philippe Sanfourche, vous qui avez suivi cette saison et la folle soirée d'hier. C'est quoi le secret de l'élixir Galtier?
C'est un fin tacticien, hein. Déjà exigeant, mais protecteur, avec des gamins qui deviennent des bonhommes sous son aile. On avait perçu ses qualités déjà à Saint-Etienne il y a quelques années. Aujourd'hui, il a 54 ans, une carrière de grand coach. Après avoir repris cette équipe lilloise, il faut s'en souvenir, au pire moment, il y a 3 ans et demi, 18e à la trêve après le passage de Bielsa. Galette, comme on l'appelle à Marseille, lui, l'ancien joueur de l'OM, est devenu un patron plébiscité par ses pairs, entraîneur de la saison avant même l'obtention du titre. Olivier Létang, le président du LOSC, c'est ce qu'il lui doit.
Beaucoup de calme, de sérénité, de force, de tranquillité. C'est pour moi l'occasion de féliciter le remarquable travail de Christophe. Avec un état d'esprit qui est très fort, et ben vous pouvez renverser des montagnes.
Alors la question est maintenant, quel avenir pour Galtier? Il lui reste un an de contrat, mais il est très courtisé. Nice, Lyon, voire Naples en Italie. Les discussions vont s'accélérer, mais pas avant quelques jours. Autant qu'il fasse la fête, vous l'avez entendu.
Merci Philippe Sanfourche. Pour le PSG, c'est évidemment une grande déception. Hein. La victoire 2-0 à Brest n'a pas suffi. Pour la 3e fois de l'ère qatari, les Parisiens se font coiffer au poteau. L'autre grande déception, c'est celle de Lyon, qui rate le train de la Ligue des Champions, battu 3-2 par Nice à domicile. C'est Monaco qui prend la 3e marche du podium avec un 0-0 poussif à Lens. Pour Lyon, ce sera la Ligue Europe, comme pour Marseille, qui a terminé sur un nul 1 partout à Metz. En bas de tableau, c'est finalement Nantes qui jouera les barrages face à Toulouse. Les Nantais battus 2-1 par Montpellier à domicile. Les autres résultats, Rennes l'a emporté 2-0 sur Nîmes. Saint-Etienne s'est incliné à domicile 1-0 face à Dijon. Victoire de Bordeaux à Reims 2-1 et Strasbourg et Lorient ont fait match nul 1 partout.
Vous savez tout, Lille, champion de France, on en parle tout à l'heure avec nos invités, notamment la maire lilloise Martine Aubry. Petite nuit mais grand bonheur, nous dira-t-elle en direct ou tout à l'heure vers 8h20. Le reste de l'actualité, Isabelle Choquet, condamnation unanime en Occident après le détournement d'un avion de ligne par le Bélarus.
Un vol de la compagnie Ryanair entre Athènes et Vilnius a été intercepté hier par un avion de chasse bélarusse. Opération coup de poing pour arrêter un militant de l'opposition qui se trouvait à bord. Parmi les passagers, un Français, Arthur, qui a assisté à l'interpellation totalement stupéfait.
C'est une scène qui est presque digne d'un film. Je trouve que dans l'avion, l'atmosphère était plutôt calme. Il y a juste la personne interpellée plus tard, qui sur le coup, quand on a annoncé qu'on atterrissait à Minsk, qui s'est un peu révolté auprès d'un steward. Donc il parlait en biélorusse, donc je pouvais pas comprendre ce qu'il se disait. On peut supposer que il se plaignait et qu'il anticipait en fait ce qui allait se passer. Peut-être, ça c'est mon hypothèse. Voilà, il était très remonté pendant une minute, puis après il a repris son calme. Et après, quand il s'est fait interpeller, j'ai trouvé un visage serein, enfin qui laissait rien paraître. Justement, on nous disait rien, donc moi je suis allé voir un des capitaines de l'avion et je lui demandais s'il pouvait me donner plus de détails. Il m'a juste dit qu'on lui a demandé de se poser en urgence à l'aéroport le plus proche, qui était Minsk. Et du coup, il avait pas le choix entre guillemets. Alors la personne interpellée n'a pas repris l'avion avec nous. Elle était deux rangées devant moi et sa place était vide, donc elle est restée sur place.
Un document RTL signé Arnaud Touche. Cette arrestation suscite beaucoup d'indignation. Paris dénonce un acte inacceptable. L'Europe évoque de possibles sanctions. Washington condamne et réclame la libération du journaliste Roman Protasevich. En Italie, le dernier bilan après la chute d'une cabine de téléphérique est désormais de 14 morts. Un enfant de 9 ans qui était dans un état critique a succombé à ses blessures. Un autre de 5 ans est toujours hospitalisé. Il est pour l'instant le seul survivant. L'accident s'est produit à Stresa sur les rives du lac Majeur. Il serait dû à la rupture d'un câble. Comment est-ce possible? Tentative d'explication avec Laurent Reynaud, il est délégué général de Domaine Skiable de France.
Pour qu'une cabine tombe au sol, il faut forcément qu'il y ait une rupture d'une pièce mécanique de sécurité. Qu'il s'agisse du câble ou qu'il s'agisse d'une autre pièce de sécurité qui reliait la cabine au câble. Les ruptures de câble sur les remontées mécaniques, c'est des événements absolument rarissimes. On peut imaginer d'autres causes, hein, la pièce de liaison entre le câble et le chariot du téléphérique ou dans le chariot ou bien au niveau de la suspente. De toute façon, il ne peut s'agir qu'une conjonction d'événements. Il ne peut pas y avoir d'accident de transport avec une seule cause. C'est toujours multifactoriel. Ces accidents sont très rares. Ils sont examinés et je vous le dis, dans les remontées mécanique, on a un niveau de sécurité qui est aussi élevé que sur les métros et les tramways.
Explication au micro RTL de Valentin Boissé.
8h06, vous restez là s'il vous plaît dans un instant, la suite du journal d'Isabelle Choquet. On va s'arrêter tous ensemble sur la flambée des matières premières avec notamment le plastique qui vaut de l'or. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
La suite du journal à 8h09 avec Isabelle Choquet. C'est donc l'un des effets pervers de la crise sanitaire. Il y a une pénurie de matières premières.
Et du coup, les prix flambent, ce qui pourrait freiner le redémarrage de l'économie mondiale. On manque de tout, en fait, hein, de produits agroalimentaires, de métaux, de pétrole. Conséquence, eh bien, cela coûte de plus en plus cher de fabriquer du plastique. Le prix des polymères a quasiment doublé ces derniers mois. Ce qui inquiète fortement dans l'Ain, le département de la Plastique Vallée, comme on dit. Reportage RTL de Frédéric Perruche dans l'entreprise Rovip. Elle fabrique des bouchons.
Dans cet immense atelier, 260 millions de capsules de bouchons en plastique sont produits chaque année à partir de 2500 tonnes de polymères, dont le prix a flambé ces derniers mois. Se désole Emmanuel Perdry, la patronne de Rovip.
En 6 mois, nos prix ont doublé. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur des polymères pour nos bouchons, au-dessus de 2 euros le kilo. En novembre-décembre, on était à 1,20 euros. Là où, il y a un an, on était à moins de 1 euro. Et quand je dis 2 euros, c'est dans le meilleur des cas.
Un casse-tête pour cette chef d'entreprise qui s'attend à un impact sévère sur le chiffre d'affaires cette année.
Ça réduit à peau de chagrin la marge qui nous permet de payer les salaires et les autres charges externes. L'impact global lissé sur l'année, c'est au moins entre 500 et 750 000 euros de résultats de moins pour l'entreprise.
Autre problème, en plus du prix, la pénurie de matières premières.
On a aujourd'hui des arrêts de production clients. Donc moi, j'ai des presses en inactivité parce que je ne peux pas produire et je n'ai pas de stock de produits finis. J'ai vraiment pas de stock de produits finis. Donc si j'ai un client qui a un besoin urgent, je suis incapable d'y répondre.
Pénurie très dommageable alors que la demande est en forte augmentation avec la reprise économique.
Le reportage RTL de Frédéric Perruche dans l'Ain. Au chapitre politique, Manuel Valls quitte définitivement la politique. L'ancien Premier ministre l'annonce, il abandonne la mairie de Barcelone et revient s'installer définitivement en France. De fait, il vit déjà à Paris depuis plusieurs mois avec son épouse catalane. Les indicateurs sanitaires continuent de baisser. Le nombre de malades du Covid hospitalisés vient de passer sous le seuil des 20 000, une première depuis fin octobre. On compte environ 3 500 patients en réanimation et on est également en dessous des 10 000 cas positifs sur 24 heures.
Et puis Isabelle, l'Eurovision, quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Terminé, Stéphane. Le chanteur du groupe italien Maneskin qui a remporté le concours est soupçonné d'avoir sniffé quelque chose en direct devant les caméras. Il a promis qu'il allait se soumettre à un dépistage, Laurent Marsic.
Oui, un test antidrogue que réclamait d'ailleurs le groupe italien dès samedi soir, quelques heures après sa victoire à l'Eurovision. Remontons un petit peu le temps, il est environ 22h50 lorsque les caméras de l'Eurovision s'arrêtent un quart de seconde sur le groupe italien installé dans ce qu'on appelle la Bubble Room. C'est un espace aménagé au pied de la scène d'où toutes les délégations regarde le spectacle. Soudain, le chanteur italien se penche vers la table. Un de ses camarades lui donne un coup de coude, comme pour lui dire « Attention, on est à l'antenne ». Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur se répande, c'est le cas de le dire, comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après la victoire du groupe italien, la question est donc posée officiellement « Avez-vous consommé de la drogue en direct à la télévision ?» Réponse de Damiano David, le leader du groupe Maneskin.
Je ne prends pas de drogue, s'il vous plaît, ne dites pas ça, pas de cocaïne, merci.
Pour prouver sa bonne foi, le chanteur du groupe italien a donc décidé d'être testé aujourd'hui. S'il est positif, eh bien le pays risque des sanctions, mais pas forcément la destitution. Ce genre de cas ne s'est en tout cas jamais présenté à l'Eurovision.
Les explications RTL de Laurent Marsic, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les gagnants, les Italiens, avec ce titre.
On était obligé, ça, Isabelle ? On était obligé de réécouter ? Ouais ? D'accord.
Attention, sinon, je vous dis Barbara Pravi. Hein.
On vous retrouve à 9h pour l'essentiel de l'actualité. À tout à l'heure, vous avez toute l'actu sur l'appli RTL.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h13, la brigade RTL et la Birmanie ce matin où s'ouvre le procès d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement birman qui comparaît pour la première fois physiquement devant la Cour suprême birmane, plus de 3 mois maintenant après le coup d'État militaire. Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
Vous nous dites ce qu'on lui reproche ?
Alors au début, elle a été arrêtée pour importation de talkie-walkie et non-respect des règles Covid. Assignée à résidence, l'ex-chef du gouvernement est maintenant poursuivie pour trouble à l'ordre public et corruption. En tout, elle est poursuivie pour 6 chefs d'inculpation. Il semble que la junte au pouvoir fasse tout pour maintenir la prix Nobel de la paix en détention. Dernière étape en date, il y a quelques jours, les militaires ont annoncé qu'ils allaient interdire son parti et poursuivre tous les dirigeants pour trahison.
Qu'est-ce qui peut lui arriver ?
Eh bien, elle risque plusieurs années de prison et de sortir définitivement de la vie politique du pays. Ses avocats n'ont pas le droit de la rencontrer. Ils peuvent simplement s'entretenir avec elle par visioconférence. Ils mettent donc en doute la confidentialité de toutes leurs conversations. Une incarcération, Aung San Suu Kyi, âgée de 75 ans, vit chez elle, assignée à résidence. Et ce n'est pas la première fois. Depuis son entrée en politique dans les années 80, elle a déjà passé 15 ans enfermée dans des résidences surveillées. Et à chaque fois, ces arrestations sont le fait de la junte militaire qui refuse de laisser le pouvoir au parti d'Aung San Suu Kyi, qui a pourtant une fois encore remporté les dernières élections avec 82% des voix, mais le chiffre est contesté par l'armée.
Et c'est pour ça, Émilie, que les manifestations contre la junte militaire se poursuivent ?
Oui, elles n'ont même jamais cessé depuis le 1er février. Les Birmans manifestent pour le retour de la démocratie, un mouvement populaire inédit qui touche toutes les villes du pays. Il y a des manifestations, des grèves générales et un large mouvement de désobéissance civile, mais aussi une forte répression de la part des militaires. 800 Birmans ont été tués depuis le 1er février et près de 5000 ont été arrêtés.
Émilie Bojard en direct, la brigade RTL. C'est tous les matins pour en savoir plus et comprendre mieux. Il est quasiment 8h15. Nous sommes lundi, dans un instant, décryptage Fake News avec notre spécialiste Jean-Mathieu Pernin. A tout de suite. RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h17, on regarde ce qu'il se passe du côté des intox, des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, non, prendre l'avion vacciné contre le Covid n'augmente pas le risque de thrombose.
Et oui, c'est ce qu'on appelle une intox remix. Vous savez, un remix en termes de chanson, c'est quand vous prenez un tube et que vous l'adaptez à votre manière afin que cette chanson ancienne paraisse moderne. Ainsi, cette fausse information devenue virale sur Facebook et prétendant que, je cite, des compagnies aériennes envisagent maintenant d'interdire les personnes vaccinées en raison de caillots sanguins et de risques pour la santé en vol. Alors, interrogée par l'AFP, une porte-parole de l'Association internationale du transport aérien indique qu'elle n'a pas du tout connaissance du fait que certaines compagnies songent à refuser l'accès à bord à des passagers vaccinés en raison de risques de caillots. Donc l'IATA estime que les vaccins ne devraient pas être obligatoires pour les voyageurs, mais que les passagers vaccinés devraient être autorisés à franchir les frontières. Donc non, les compagnies aériennes n'interdiront pas les vaccinés de monter à bord. Il s'agit en fait d'une mauvaise interprétation de cas de thrombose et une confusion, vous allez donc comprendre, de la situation épidémique française.
Tout part d'une comparaison faite par Olivier Véran fin avril.
Exactement. Le 22 avril dernier exactement, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé vole au secours de AstraZeneca, accusé de provoquer thrombose sur thrombose, un caillot se formant dans une veine ou une artère. Olivier Véran donne alors cette comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner avec AstraZeneca. Cela permet quand même, je crois, dit le ministre, de relativiser les choses. Bon, souci avec cette comparaison, c'est qu'elle embrouille plus qu'elle n'éclaire, puisque les thromboses provoquées par le vaccin, très rares, 30 cas sur près de 4 millions d'injections, sont différentes de celles provoquées par un long voyage dans les airs. Les thromboses survenant après un trajet en avion ne sont pas induites par les mêmes mécanismes biologiques que celles liées au vaccin. Elles touchent d'ailleurs davantage les membres inférieurs, alors que celles provoquées par le vaccin sont majoritairement digestifs ou cérébraux.
Une confusion qui alimente l'intox
Complètement. Olivier Véran dit que des cas de thrombose existent en avion. C'est le cas rarissime des injections de vaccins, donc prendre l'avion vacciné accentue le phénomène. Voilà, la mécanique de la fausse information est simple, mais ne tient absolument pas scientifiquement. L'avion et le vaccin font l'objet de nombreuses fausses informations, et il faut toujours se rappeler ça, si la chanson est mauvaise à la base, même un remix ne la sauve pas.
Décryptage du matin avec notre spécialiste en direct, Jean-Mathieu Pernin, 8h20.
RTL Matin,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
C'est la consultation gratuite du matin. Bonjour Michel.
Bonjour Stéphane.
Vous vous adressez à celles et ceux qui traînent une fatigue dont ils ne s'expliquent pas l'origine.
Oui, mille raisons peuvent expliquer que vous vous sentiez perpétuellement épuisé, soufflé au moindre effort et que vous ayez l'impression d'avancer à la vitesse d'un escargot sous sédatif. Mais il est une raison assez répandue à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la carence en fer.
Du coup, comment être sûr que c'est l'origine du problème ?
Alors le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de faire une prise de sang, bien sûr, mais comme on ne va pas non plus faire des prises de sang à tout bout de champ, il convient d'être attentif à certains symptômes qui, si vous les cumulez, peuvent donner une indication.
Et quel genre de symptômes ?
Alors je vais vous en donner 5. Premièrement, vous faites des nuits normales, vous dormez, votre sommeil a l'air tranquille, mais vous vous réveillez fatigué. 2. Vous avez tendance à perdre vos cheveux, en tout cas plus que d'habitude. Ça, c'est pas un problème pour vous, Stéphane. 3. Vos ongles sont fragiles, ils se cassent ou se dédoublent. 4. Vous êtes d'une pâleur inhabituelle. 5. Vous avez des problèmes de concentration, voire des trous de mémoire. Alors, on va dire que si vous cumulez 3 de ces 5 symptômes, la probabilité est forte que vous soyez carencé en fer. Reste à en avoir la confirmation pour agir.
Et j'imagine que l'action, ça passe par l'alimentation ?
Oui, parce que le fer, ce n'est pas votre organisme qui va le fabriquer, quoi que vous fassiez. Il faut donc le lui en donner. Vous lirez sans doute ici et là qu'on trouve du fer dans les légumes verts, les œufs, les produits laitiers. C'est vrai. Mais il y a un bémol, le fer qu'on y trouve est un fer non héminique, autrement dit, il n'est que résiduellement absorbé par l'organisme. Donc, je ne dis pas qu'il faut snober ces aliments, mais du fer du bon, c'est-à-dire du fer héminique, beaucoup mieux assimilé par l'organisme, vous en trouverez plus sûrement dans la viande rouge, les abats, les poissons et les fruits de mer. Et le champion, c'est le boudin noir. Il faut aussi faire de bonnes associations.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que l'ami du fer, eh ben, c'est la vitamine C. Si dans le même repas, vous associez vos œufs ou vos légumes verts, source de fer non héminique, avec un kiwi, une orange, des myrtilles, qui sont de bons pourvoyeurs de vitamine C, vous facilitez l'assimilation du fer par l'organisme. À l'inverse, le fer a des ennemis, le café, le thé, le cacao, puisque ces boissons freinent l'assimilation.
Les compléments alimentaires, Michel Siemes, qu'on trouve en pharmacie, bonne ou mauvaise idée ?
Bah, en cas de léger déficit, je vous répondrai pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en l'absence de prise de sang, bah, on ne sait pas dans quelle proportion on est carencé, ce qui fait qu'on ne sait plus trop où placer le curseur. Et dans ce cas, le risque, bah, c'est d'avoir trop de fer dans l'organisme. Ça aussi, c'est pas très bon parce qu'il va s'accumuler dans certains organes. Donc, mon conseil, 1. On adapte son alimentation. 2. On surveille les symptômes. Et 3. Si vous les cumulez, bah vous faites une prise de sang.
C'est Michel Siemes en direct. Nous savons tout à disposition, évidemment, très vite en podcast sur l'appli RTL. À demain, Michel,
bien sûr,
pour une consultation supplémentaire. 8h23, on a fait la fête à Lille, figurez-vous. C'est le LOSC qui est champion de France de football. La maire de Lille, Martine Aubry, se connecte juste après ceci. A tout de suite.
Stéphane Carpentier.
RTL Matin, 7h-9h30.
Enfin, après 10 ans, ça fait plaisir et on y est arrivé.
Lille est champion, on a renversé l'OM. Je suis très heureux aujourd'hui.
10 ans qu'ils attendaient cela, les supporters de Lille, un titre en or massif. Le LOSC de Christophe Galtier l'a fait remporter la Ligue 1 au terme d'une saison à suspense. C'était encore mieux qu'au cinéma. Lille termine devant le PSG et ses stars. On a fait la fête ces dernières heures. Ce sera tout pareil toute la journée à Lille. Martine Aubry nous rejoint donc, la maire de la Cité du Nord, en direct. Je vais d'abord vérifier que vous avez encore de la voix ce matin. Bonjour à vous, Martine Aubry.
Oui, bonjour. Encore un petit peu, malgré le sommeil.
Petite nuit, mais grand bonheur. Petite nuit, mais grand bonheur.
Grand bonheur. Grand bonheur, grande joie et bien partagé avec les supporters. Je crois qu'on peut dire que ça s'est relativement bien passé, même très bien passé. On attendait ça depuis tellement longtemps. La ville était tout en rouge et blanc. C'était parfait, parfait.
Quel public, Martine Aubry, au passage, qui s'est forcément lâché cette nuit parce que privé de stade tout au long de cette saison?
Ah oui, ça je dois dire que quel désespoir de ne pas avoir pu aller les voir. Et puis là, on va les revoir cet après-midi, mais c'est pas pareil. Donc je crois que tout le monde s'est lâché dans cette période morose hier soir. Et jusqu'au bout, on a attendu, mais ça a été finalement la meilleure équipe qui a gagné. Cette équipe qui a été cohérente, sérieuse toute l'année, qui nous a donné des moments incroyables contre le PSG, contre Marseille, contre l'OL, et qui a tenu jusqu'au bout. Et il faut vraiment féliciter Christophe Galtier et son équipe. Il est tellement proche de ses joueurs, il a réussi à les faire jouer collectif, régulier, sérieux. Voilà, vraiment, Christophe, bravo, bravo, bravo.
Martine Aubry, 10 ans que Lille attendait cela. Je ne vous présente pas Ludovic Obraniak, champion de France avec Lille en 2011. Non. Bienvenue Ludovic.
Bonjour à vous deux.
Quelle saison lilloise, bonjour. Quelle saison tout simplement, quel suspense. Martine Aubry parle d'un collectif lillois, c'est ça qui a gagné ?
Oui, clairement, c'est sur la régularité. Cette équipe a dépassé toutes nos attentes. Christophe Galtier en est l'architecte privilégié. Et il a su gérer un effectif de grande qualité. Et puis, c'est la gestion du turnover aussi qui a fait la différence, à l'image de 2011. Je me souviens qu'on avait été chercher le titre pas à 11 ou 12 joueurs, mais plutôt à 16. Et c'est la vraie réussite de Christophe Galtier cette année.
Christophe Galtier, Martine Aubry, il va partir. Vous n'avez pas les moyens ou les mots pour le retenir?
Ah ben les mots, il le sait. Hein. Mmh. Nous échangeons quelques textos. Non, bien sûr, il a été formidable toute l'année. Parce qu'au-delà de ce que vient de dire Ludovic Aubragnac, à qui je dis encore bravo ce but à la 89e minute contre le PSG. On l'a tous dans le cœur. Mais ce qu'il a réussi, non seulement de faire jouer divers talents de manière collective, mais aussi un sens tactique incroyable. On voit les changements qu'il a fait, par exemple, à l'OL, contre l'OL en deuxième mi-temps, ça a été extraordinaire. Bon, il est très proche de ses joueurs, il sait les entendre, les écouter, leur redonner confiance. Bon, c'est vraiment, voilà, il faut qu'il reste. Bon, je sais que je fais peut-être un vœu pieux, mais bon, je le dis quand même.
Ludovic, on comprend pas.
Il faut penser à Rudy Garcia aussi, hein, qui a été un formidable entraîneur en 2011. Je pense que Ludovic Aubragnac me contredira pas.
Il va partir de Lyon d'ailleurs, Rudy Garcia. Ludovic, on comprend pas toujours pourquoi un coach fait ses valises alors qu'il est champion, alors qu'il va jouer la Ligue des Champions la saison d'après.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le foot moderne, c'est devenu des cycles de 2 ou 3 ans. Il n'est pas si facile de se renouveler chaque année, de trouver les mots. Je crois que Christophe Galtier a été tiré la quintessence de ce groupe depuis maintenant 3 ans. Peut-être qu'il a des ambitions aussi personnelles, différentes. Il a besoin de changer d'air. On lui doit beaucoup parce que il faut se souvenir qu'il y a pas si longtemps que ça, il a récupéré l'équipe qui était en lambeaux et qui nous a sauvés d'une descente en deuxième division. Il a emmené ce groupe en Ligue des Champions et il nous emmène à nouveau sur le toit de la Ligue 1. Donc voilà, est-ce que ça serait difficile de faire mieux que ça? Probablement.
C'est la fameuse saison de trop qu'il faut éviter, c'est ça?
Exactement. Et peut-être que lui aussi, en tant qu'homme, a besoin d'un nouveau challenge. Donc, il vient de nous emmener sur le toit de la Ligue 1 10 ans après. Donc, voilà. On va le suivre et on va accepter, peut-être avec un peu de désarroi, une décision qui m'apparaît maintenant actée.
Martine Aubry, je reviens à la fête. Ce lundi à Lille, ça va ressembler à quoi?
Eh bien, d'abord, il y aura la remise du trophée à Luchin, malheureusement pas au stade, puisque Eiffage n'a pas souhaité ouvrir le stade, ce que je ne comprends pas, je trouve ça effrayant, bien que le président de la métropole ait tout fait pour essayer de les décider. Bon, ça sera à Luchin, donc sans doute moins de monde que l'on pouvait espérer, en tout cas au stade. Et puis ensuite, eh bien, l'équipe va arriver à Lille pour une parade dans un bus. Une parade qui a été discutée depuis maintenant 8-10 jours avec la préfecture et qui permettra quand même aux supporters de rencontrer et de remercier l'ensemble de l'équipe, mais sans arrêt, c'est-à-dire une parade avançante, si je puis dire, pour les saluer.
Vous allez monter sur le bus,
à partir de 16h30. Pardon ?
Vous allez monter sur le bus, vous ?
Non, je vais pas monter cette fois-ci. Non, je vais pas monter. J'y étais en 2011, mais à l'époque, on connaissait tous les joueurs, on avait un autre rapport. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Olivier Létang, ça va recommencer. Il y aura à la fois un rapport entre les joueurs et nos équipes dans nos quartiers, dans toute la métropole. Et puis peut-être un peu plus de travail avec la ville, comme on a voulu le faire en mettant partout ces soutiens au LOSC. C'est aussi ces photos qu'on a mis, ces soutiens au LOSC depuis maintenant 15 jours. Voilà, je sens avec Olivier Létang la volonté effectivement que l'équipe soit plus proche des supporters et partout où ils sont dans les clubs. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose.
Ludovic Aubragnac, je profite de vous, j'aurai un mot sur le PSG privé de Ligue des Champions, encore privé de titre en Ligue 1, c'est rare. Et la grosse incertitude, ça concerne Mbappé. Est-ce qu'il va partir selon vous?
À mon sens, non, parce que les conditions ne sont pas encore totalement réunies, il a encore des choses à réaliser avec le Paris Saint-Germain et ça me surprendrait de lui de partir alors que Paris n'est pas champion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'être un pionnier et s'il va au Real de Madrid, il sera s'il gagne la Ligue des Champions et le championnat, il sera un parmi tant d'autres. à Paris, il sera le premier avec sa ville, avec son club. Et ça, ça, et ça, ça n'a pas de prix.
Marcel Aubry, avant de vous libérer, je voudrais vous entendre sur ce Paris Saint-Germain. En 5 minutes, vous avez dit 3 fois, je crois, que Lille a battu Paris récemment ou il y a plus longtemps. Est-ce qu'il y a une espèce de fierté, voire presque, si je peux me permettre, une jouissance que Lille soit champion devant le gros Paris Saint-Germain, devant la capitale?
Bah, ça veut dire que l'argent fait pas tout déjà, donc ça c'est vraiment formidable. L'OS le sait depuis toujours et c'était le cas aussi en 2011. Bon, ceci dit, moi j'ai pas d'opposition particulière vis-à-vis du PSG. Je suis contente qu'une équipe comme la nôtre, en jouant collectif, en ayant des talents mais qui ont réussi à jouer ensemble, on peut pas dire que ça soit partout pareil, soit effectivement devant ces grandes équipes qui ont beaucoup d'argent et qui ont des stars internationales. Nous en avons aussi. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait citer une dizaine de joueurs du LOSC qui ont fait cette année. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Voilà. Donc, moi, je retiens simplement qu'on est premier. On a gagné sur chacun des matchs importants et c'était ça qui était essentiel. Voilà. Quelques petits trous de temps en temps, mais globalement, vraiment une saison tout à fait formidable où on a su étouffer en milieu de terrain, placer nos attaques au bon moment, avoir une défense formidable et un gardien de but. Je voudrais le redire, Mac Maignan, qui est quand même... qui aurait dû être le gardien de but, le meilleur de cette saison.
Ouais. Ouais, vous devenez spécialiste du ballon rond, ou Martine Aubry, à force, hein.
Ah bah vous savez, moi je vais au football depuis que j'ai 5 ans avec mon père, qui est sans doute le supporter le plus ancien du LOSC, puisqu'il va avoir 96 ans et qui soutenait déjà l'Olympique Lillois. Donc vous voyez,
je comprends les choses.
Voilà. Donc,
merci à vous. Bonne fête à Lille. Bonne fête à Lille.
Merci
aujourd'hui.
Beaucoup.
Profitez bien sûr, tous les supporters lillois qui se réveillent avec le sourire. Ce matin, merci à Franck Hanson d'avoir assuré la liaison technique et super merci à Ludovic Obrania qui s'est réveillé ce matin pour nous. C'était un plaisir de parler ballon rond et surtout de ces festivités, de ces sourires au réveil. Dans un instant, sur RTL, vous êtes comme ça, on prend la direction de l'île de beauté. A tout de suite.
Dans 30 minutes, laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Les cinémas ont rouvert leurs portes et les musées aussi. Alors ce matin, je vous propose d'allier les deux en vous faisant visiter le musée consacré à Georges Méliès, à la Cinémathèque, un lieu étonnant qui rend hommage à un pionnier de l'histoire du cinéma, l'inventeur de ce qu'on appelle maintenant la science-fiction, avec notamment son chef-d'œuvre Le Voyage dans la Lune, sorti en 1902. Visite guidée au musée Méliès, c'est à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
À 8h37, la météo, les cartes, les radars de Louis Baudin. On a bien compris que les trois prochains jours, voilà.
Ouais, hein. Voilà, quoi, exactement. C'est vrai que il y a des radars, ils servent en ce moment parce qu'on envoie des images avec de la pluie sur quasiment toutes les régions. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Des averses de pluie, de grêle, de neige dans les Alpes, surtout près de la Méditerranée. Demain, ça continue dans la moitié nord avec encore un régime d'averse, entrecoupé quand même de quelques éclaircies, mais avec du vent encore sur le littoral de la Manche. De l'Aquitaine aux Alpes du Sud et la Méditerranée, on se dira, tiens, c'est un petit peu mieux quand même. On dira, on va dans le bon sens. Les températures sont toujours pas de saison au nord comme au sud. Mercredi, c'est la même chose. Une nouvelle perturbation va balayer la moitié nord. Le sud sera relativement épargné. Donc là, les températures commenceront à remonter. Mais le vrai changement, c'est à partir de jeudi. Et quand je dis changement, c'est-à-dire qu'on change de système, hein. Jusqu'à ces derniers jours, on avait ce même système perturbé qui était bloqué. Pas d'anticyclone. Et on sent que ça bouge à partir de jeudi. Voilà pourquoi on devient plus optimiste avec donc le retour d'un temps plus sec, moins instable et donc forcément des températures qui vont remonter, notamment pour vendredi et samedi. On prévoit plus de 20 degrés dans la moitié. Alors c'est pas extraordinaire non plus, mais au moins on va revenir à des valeurs de saison avec beaucoup de soleil. Les précipitations devraient disparaître et puis dans le sud on va même sentir un petit parfum d'été puisque là les températures pourraient dépasser les 25 degrés.
Ça bouge et ça c'est Louis Baudin qui le dit. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. I go on it. Chucking more feet out, not it. Ce sera peut-être un tube de l'été, ça, figurez-vous. Vous savez, l'été, quand il fera beau, quand il fera chaud, tout ça. Dans une autre vie bientôt, ça approche. Un grand merci de nous accompagner, il est 8h39.
RTL, vous
vous êtes comme ça.
Nous mettons le cap ce matin, comme promis, sur l'île de Beauté. Une étape en plein cœur de la Corse, où quelques habitants d'un village se sont mis en tête de restaurer une châtaigneraie. Pianello, c'est son trésor vieux de plusieurs siècles. Bonjour à vous, Julien Fautra.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On parle là, Julien, de 100 hectares d'arbres de valeur inestimable et d'une association qui essaie de sauver ce patrimoine.
Oui, le village de Pianello, accroché à la roche à 800 mètres d'altitude, surplombe une sublime vallée séparée en deux par une petite rivière.
On voit toute la châtaigneraie. On est sur la vallée de la Bravona. Bravona, c'est la rivière que vous voyez là.
Avec les odeurs chaudes de cistes et d'immortelles. Horace François Manenti, 89 ans, a connu cette époque, remonter les châtaignes avec un âne ou un mulet depuis cette forêt qui a nourri ce village en autarcie pendant des siècles. Et lui évitant la famine. L'arbre devant nous fait 13 mètres de circonférence, 35 mètres de haut.
Ce châtaignier était un des plus beaux châtaigniers du coin.
Horace, qui s'est mis en tête de choyer cette forêt, abandonnée à mesure que les jeunes quittaient le village pour des régions plus hospitalières.
C'était l'aliment de base, surtout pendant la guerre. Vous savez qu'ici, on n'a pas souffert de la disette. Le plat le plus connu, c'était la polenta.
Les châtaignes sont ramassées et pour les rendre blanches avant de les emmener au moulin, il faut les sécher dans des petits bâtiments en pierre et en bois, ces casettes qui ont plus de 2 siècles.
On mettait les châtaignes par-dessus, qu'on dispersait là-dessus, qu'on remuait de temps en temps, et un brasero en bas avec du bois de châtaignier, d'ailleurs qui est assez doux, le feu est assez doux. Vous voyez ce petit billot là. Mm-hmm. Ce billot servait avec, il y avait un sac de jute comme un traversin, on dirait, ouais. Où on vivait en autonomie carrément. Ouais. C'est une châtaignière qui était là à l'abondant depuis une cinquantaine d'années, on peut dire un demi-siècle, depuis que les gens de ma génération étaient partis un peu ailleurs à la recherche d'une vie un peu plus douce.
Ces 1200 arbres biscornus, des bouts de tronc qui s'entremêlent, ont donné à cette région montagneuse son nom, la Castanich, qui tire son étymologie de castagnou, châtaignier. Le village est difficile d'accès, certaines routes y sont récentes, les camions n'ont jamais pu y grimper. Voilà pourquoi l'une des châtaigneraies les plus anciennes d'Europe n'a pas été dévastée par l'industrie du tanin.
Mais alors Julien, concrètement, comment l'a sauvée cette forêt ?
Eh bien, c'est la responsabilité d'un ingénieur agronome, un baron perché, Emanuele Barbieri, lourde tâche pour cet acrobate harnaché avec des cordes.
Ici, on est face à un vestige incroyable. Donc, on a des arbres qui ont 500, 600, 700 ans. Et donc, on est face à quelque chose d'extraordinaire qui n'existe quasiment qu'ici. C'est probablement la châtaigneraie la plus ancienne d'Europe. Le terme furesto, c'était le terme qui était utilisé pour dire maintenant, c'est l'heure de la récolte, tous les animaux doivent être parqués. Il y avait les cloches qui sonnaient et ça rythmait la vie du village. Et plein d'autres termes sont forgés par le châtaignier, pour le châtaignier, afin de bâtir non seulement le verger, mais toute la communauté qui vivait autour.
À des fins de recherche, Emanuele Barbieri pose des capteurs sur les arbres pour déterminer si et comment ils communiquent entre eux. Ces châtaigniers sont la mémoire de Pianello.
Notre objectif, c'est garder le plus longtemps vivant possible ce domaine. Donc ce n'est pas la question de le renouveler avec des arbres qui auraient 10-15 ans, mais vraiment, s'ils ont 400 ans, faisons en sorte qu'ils en aient 500, 600, 700. Parce qu'ils ont une histoire incroyable dans leur sein. Ils racontent le changement climatique des siècles derniers. C'est comme une immense cathédrale. Tu ne te poses pas la question, détruisons-la, faisons une cathédrale moderne. Tu tentes de la garder, de la préserver le plus longtemps possible. Et à Pianello, ces arbres-là, ils sont immenses, donc ils produisent une quantité d'oxygène incroyable. Ils filtrent et ils stockent l'eau de pluie. Donc ils nous donnent de l'eau potable. Ils nous font respirer. Ils nous donnent de l'eau potable. Si vous faites ça dans l'espace, il vous faut 15 milliards.
Une association portée par le groupe Corse de musique Imouvrini a lancé un programme de parrainage des châtaigniers pour aider à l'entretien et à la protection de la remarquable forêt de Pianello.
RTL, vous êtes comme ça en plein cœur de la Corse ce matin avec Julien Fautra. Merci à vous Julien, 8h43. À suivre Laurent Gérard, on va vous en offrir le meilleur, on va se régaler, sensation, bonne humeur, garantie. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
RTL Matin.
8h46, promesse tenue donc du Laurent Gérard dans la radio.
Comme chaque année, au printemps, de nouveaux mots et expressions ont fait leur entrée dans les prestigieux dictionnaires Larousse et Le Robert. Et comme chaque année, des personnalités éminentes seront interrogées sur le bien fondé de ces nouveautés. Souvenez-vous des interviews du regretté Jacques Chancel.
Radioscopie. Radioscopie.
Jacques Chancel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle radioscopie de Jacques Chancel. Aujourd'hui, je reçois un troubadour poète au verbe haut et à la rime riche. Un auteur-compositeur-interprète qui aime notre langue et qui sait s'en amuser. Georges Brassens. Georges Brassens, bonjour. Georges Brassens, on vous présente parfois comme le nouveau François Villon. Que pensez-vous des mots nouveaux qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire Georges Brassens? Vous savez, je peux peut-être me tromper, mais je crois que notre langue française est la plus belle qui soit, et c'est bien normal qu'elle évolue. Même si mes petites chansons, et je m'en excuse auprès des puristes, évidemment, je ne lui rends pas tous les hommages qu'elle mériterait. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi bien écrites que celles de Tino ou de Charles Trenet. Georges Brassens, y a-t-il encore des mots nouveaux qui manquent à notre langue, selon vous? Vous savez, dans une de mes chansonnettes, j'ai écrit à propos d'une partie, ma foi, bien agréable de l'anatomie féminine, que c'est la grande pitié de la langue française, c'est son talon d'Achille et c'est son déshonneur de n'offrir que des mots entachés de bassesse à cet incomparable instrument de bonheur. Merci Georges Brassens.
Emmanuel Macron a suggéré aux Français de passer un été apprenant. Eh bien justement, Stéphane Bern sort un cahier de vacances, secret d'histoire. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour ma chère Jade. En effet, je vous propose dans ce cahier de vacances de réviser l'histoire avec une série de quiz. Vous voulez essayer?
Ah, j'adore, oui, pourquoi pas, allez-y.
Quel célèbre peintre de la Renaissance a peint la Joconde? Réponse A, Léonard de Vinci. Réponse B, Léonard de Vincennes.
Dites donc Stéphane, c'est facile quand même, Léonard de Vinci.
Bonne réponse. Léonard de Vincennes n'est pas peintre, il est artisan tripier.
Voilà.
Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Deuxième question, plus difficile. Quel était le surnom du roi Louis VI? Réponse A, Louis VI le Gros. Réponse B, Loulou la Fourchette.
Louis VI le Gros.
Bravo mademoiselle Jade, vous êtes incollable.
Ah, merci.
Mais voyons si vous saurez répondre à cette troisième question. Quel roi a donné son nom à un fromage? Réponse A, Jean-Pierre Vacheguiry. Réponse B, Richard Cœur de Lion.
Oh, bah je vais dire B, Stéphane.
Félicitations, mademoiselle Jade, c'est un sans faute.
Merci. Selon tous les experts, l'épidémie en cours pourrait créer une crise sociale. On en parle avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour, bah pour une fois, bon, bah, oui. Nous autres de la CGT, on est d'accord avec les experts, comme quoi que c'est une véritable catastrophe qui nous attend, même si nous, ce qu'on dit à la CGT, oui, c'est que les experts, il y a un truc qu'ils oublient d'additionner dans leurs additions.
Ah. D'accord, eh bien c'est le moment de corriger ces erreurs de calcul, allez-y.
Bon bah pendant le confinement, je résume, on n'a pas pu se reposer les samedis et les dimanches, vu qu'on travaillait... Pas la semaine.
Oui. Ce n'est pas faux. Mm-hmm.
Ouais, mais c'est pas tout. Il y a aussi les ponts qu'on n'a pas pu prendre. Donc, nous, ce qu'on dit, nous autres, à la CGT, c'est que tout ça, va falloir le rattraper.
Vous voulez rattraper tous les jours de travail perdus?
Ah ben, attendez. Nous autres, ce qu'on veut à la CGT, c'est rattraper tous les jours de congé. Donc, nous, ce qu'on dit, ce qu'on dit qu'il faut, c'est que le monde, il se retrousse les manches.
Pour se remettre au travail.
Ben non, essayez de suivre le raisonnement de la CGT pour se mettre en congé.
Victime, elle aussi, de la fermeture des lieux de spectacle, Muriel Robin attend impatiemment la réouverture des salles pour présenter son tout nouveau sketch bientôt culte. Découvrons-le ensemble. Après la boîte aux lettres, le répondeur, le vide-ordure, l'annuaire, l'horloge parlante, Muriel Robin revient à l'humour inspiré du quotidien avec un nouveau sketch, le déconfinement.
Bon, il paraît qu'on peut sortir maintenant. Va falloir que je retourne la sortie alors, Que je déconfine et pof, juste au moment où je commençais à m'habituer au confinement.
Le déconfinement, le nouveau sketch de Muriel Robin, écrit en vidéoconférence avec Pierre Palmade.
Comment? Pardon, il faut mettre un masque? Bon, bah comme j'ai pas de masque, je vais rester confiné. Alors bah tiens, bah, je vais faire de la confiture, moi. Et puis du confit de canard aussi.
Le déconfinement, le nouveau sketch de Muriel Robin qui fait rire de la vie quotidienne. Bientôt sur scène avec son bonus, le gel hydroalcoolique.
Ah bon, il n'y a plus de gel. Remarque, au mois de mai, c'est normal, hein.
Mais que se passe-t-il dans ce studio?
The rhythm of the life, the night. Oh yeah, the rhythm of the night.
Tiens donc, bonjour Jack Lang, qu'est-ce qui se passe?
Ça fouette ma jadounette. This is the rhythm of my life. Oh yeah.
Oula. Bon, peut-on couper la musique, s'il vous plaît, histoire qu'on s'entende parler, simplement. Ah, voilà.
J'étais tranquille. Pépouze, les babous sur mon bureau de l'Institut du Monde Arabe en train d'écouter la dernière compile de House Techno Acid Music de mon ami DJ Snake.
Oui.
Quand j'ai eu une idée révolutionnaire, Albert.
Ah, je crois que je vois de quoi vous voulez parler. Vous avez pris la tête d'un fonds de dotation pour les DJ qui n'ont pas pu mixer dans les 3000 discothèques de France fermées depuis le début de la pandémie.
On ne parle que des restaurateurs. Mais un DJ sans platine, c'est comme un cuisinier sans casserole. D'ailleurs, ça fait souvent le même son, Gaston. Il faut venir en aide à ces artistes majeurs qui régalent nos oreilles comme d'autres régalent nos papilles, Bertille.
Alors que proposez-vous?
Il faut comprendre que ces musiciens hors pair, qui parfois vont jusqu'à connaître 3 notes de musique, n'ont pas de statut professionnel réel. Voilà pourquoi je lance cet appel solennel à Emmanuel Macron. Manu. Oui. Toi qui as certainement dû guincher au Macumba d'Amiens, tu dois créer le statut de DJ d'État.
Quoi?
Oui. Comme ça. Ben, il y a bien des comédiens, danseurs, peintres et sculpteurs subventionnés par l'État. Je ne vois pas pourquoi mes amis DJ ne le seraient pas eux aussi. Et allons plus loin en mixant le défilé du 14 juillet à la Technoparade. Hein, et en demandant à David Guetta de composer sur son bon tant pis, son orgue magnifique, un nouvel hymne national qui fasse remuer du boule sur le dance floor.
Ah, carrément.
Ensuite... Et je ne vais pas m'arrêter là. Je m'occuperai de mes amis graffeurs qui pendant 2 mois n'ont pas pu sortir de chez eux afin de joliment décorer les rames de RER, stations de métro, cages d'escalier et autres monuments historiques. De l'audace, du courage, merde.
Laurent Gérard, c'est quand vous le souhaitez, la version longue, vous allez sur le podcast, sur l'appli RTL, c'est que du bonheur. Le bonheur d'accueillir Cyril Lignac, on passe à table ensemble. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Good morning, en direct de Londres.
Oui.
Où il fait très très beau.
Il fait super beau ce matin, super beau.
C'est le monde à l'envers l'histoire. À tout de suite en cuisine.
À tout de suite.
RTL Matin.
Réservez vos places pour le spectacle événement à crédit et en stéréo. La rencontre inédite du roi du swing et du roi de l'humour, Eddie Mitchell et Laurent Gérard. À crédit et en stéréo, en live streaming, le jeudi 27 mai à 21h. En vente sur MyCanal et point de vente habituel avec RTL.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
On passe à table, comme tous les matins de la semaine à 8h58, donc en direct avec Cyril Lignac. Je ne vous mets pas la pression, Cyril. En plus de tous les auditeurs, vous avez toute l'équipe de Laissez-vous tenter qui est en studio et qui vous écoute. Bernard Levus, Stéphane Boussoc, Renaud Capuçon, Isabelle Morini-Bosque. Et une recette originale ce matin de houmous.
Ah mais j'adore ça. Moi aussi. Et en plus, j'ai appris à faire cette recette à Jérusalem. Dans une petite échoppe. Donc je vous donne tous les secrets. C'est, il faut déjà des pois chiches, donc ça on en trouve facilement en France, on les achète en boîte. On y met un petit peu de jus de citron et d'eau et on les cuit en fait pour vraiment les ramollir et les mettre à texture moelleuse. Ensuite on les passe dans une passoire, on les met dans le mixeur et on ajoute 150 grammes de tahine. Alors la tahine, c'est une pâte que l'on trouve assez facilement chez les épiciers, même maintenant au supermarché. C'est une crème de sésame qui est faite à base de sésame torréfié et un peu d'eau. Donc du coup, ça nous donne des saveurs qui marchent hyper bien avec les pois chiches. Et une fois que c'est bien mixé, on ajoute du jus de citron. C'est hyper simple à faire, c'est même pas la peine de l'acheter. Une fois qu'on a mixé les pois chiches, le citron, la tahine, on met bien entendu du sel, moi j'ajoute un petit peu de piment, on verse dans un petit saladier. Alors dessus, on peut en faire, pour faire plaisir à Isabelle Morini-Bosque, qui mange que des œufs, on peut cuire des œufs durs et déposer les œufs durs avec un petit peu de houmous. C'est délicieux. Bien entendu, on l'accompagne de pain. Alors, soit le pain pita, soit des toasts. Alors moi, j'aime bien faire des toasts que je frotte avec un petit peu d'ail, et comme ça je trempe avec avec le houmous, et c'est délicieux en apéritif, ou même en plat, on peut l'utiliser après pour accompagner des viandes mijotées, c'est hyper bon.
C'est pas trop
facile.
C'est pas trop gras, Cyril Lignac.
Non, c'est pas trop gras.
Non.
Ah, pas de ça. Pas de ça entre nous. Hein.
Bon, bah, tout le monde valide en studio, donc tout va bien. Merci Cyril, on se dit à demain, évidemment.
Merci.
Il est 9h.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet pour toute l'actualité du matin.
Et on retiendra d'abord que certains ch'tis doivent avoir mal aux cheveux ce matin. Grande nuit de fête à Lille après le sacre du LOSC, champion de France pour la 4e fois de son histoire et 10 ans après son dernier titre. Et ce n'est pas fini, cet après-midi, les joueurs défileront en bus. Le PSG, lui, se retrouve dépouillé. Et c'est Monaco qui décroche le 3e billet pour la Ligue des Champions aux dépens de Lyon. L'entraîneur lyonnais Rudy Garcia jette l'éponge d'ailleurs. L'OL jouera la Ligue Europe tout comme Marseille. En bas de tableau, Nantes va disputer les barrages contre Toulouse la semaine prochaine. L'actualité de ce lundi de Pentecôte, c'est aussi ce détournement d'avion très politique. Un avion de chasse bélarusse a intercepté un avion de ligne Ryanair entre Athènes et Vilnius juste pour arrêter un opposant, le journaliste Roman Protasevich. Protestation vigoureuse en Occident, Washington réclame la libération du militant et l'Union européenne évoque de possibles sanctions. En Italie, le bilan s'est alourdi après ce terrible accident de téléphérique sur les rives du lac Majeur. Un enfant de 9 ans qui était dans un état critique a succombé à ses blessures. On compte désormais 14 morts. Le seul survivant est un petit garçon de 5 ans grièvement blessé. Gérald Darmanin porte plainte contre Audrey Pulvar pour ses propos après la manifestation des policiers mercredi dernier devant l'Assemblée. La tête de liste socialiste régionale en Ile-de-France a évoqué un rassemblement glaçant. Diffamation, selon le ministre de l'Intérieur. Les proches d'Audrey Pulvar dénoncent une tentative d'intimidation. À Bordeaux, un centre de vaccination éphémère ouvrira mercredi dans le quartier de Bacalan où un nouveau variant est apparu, variant jugé préoccupant. Une 50aine de personnes ont été testées positives. Une opération de dépistage et de vaccination massive a été lancée. Et puis scandale à l'Eurovision, le gagnant, le groupe italien Maneskin, est soupçonné de dopage. Le chanteur a été filmé durant la soirée penché sur une table. Il semble sniffer un rail de quelque chose. Il a promis de se soumettre à un dépistage antidrogue. Une situation inédite. On ignore si la France pourrait récupérer la couronne en cas de disqualification des Italiens.
Voilà qui est complet. C'est signé Isabelle Choquet. Vous avez...